Bon réveil, bonne journée. Nous sommes le lundi 10 octobre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, recherche station désespérément. Un tiers des stations-service sont à sec dans le pays. Les Français perdent patience et se demandent comment aller au travail. Ce matin, reportage dès le début de ce journal. Le groupe Total Énergie lui annonce l'ouverture de négociations annuelles sur les salaires. Une condition préalable, l'arrêt du blocage des sites. Le gouvernement lui mobilise ses réserves stratégiques et s'inquiète d'une possible contagion de la colère sociale à d'autres secteurs. Et puis le football, Laurent Blanc rentre au bercail, celui que l'on surnomme le président. Revient en Ligue 1 pour aller entraîner l'Olympique lyonnais. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, ce n'est pas seulement la vitesse que l'on va surveiller. Un œil sur le compteur, un autre sur la jauge à essence, sans oublier de regarder la route. La mission du jour pour les automobilistes, trouver une station ouverte alors qu'un tiers d'entre elles sont à sec sur au moins un type de carburant. En Ile-de-France, c'est carrément une sur deux. C'est pire dans les Hauts-de-France. Résultat, beaucoup ont tenté de faire le plein hier. Peine perdue. Il faut donc attaquer la semaine alors que la réserve clignote en rouge. Reportage Thibault.
Assis à l'avant de sa voiture noire, Alexandre met le contact et pointe du doigt son niveau d'essence. Son réservoir est presque à sec, alors pour travailler, cet assureur parisien doit se réorganiser.
Là, il n'y a plus rien, non. Sachant que c'est à Rungis, donc c'est limite pour faire l'aller-retour. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, donc c'est ce que je vais faire à partir de mardi, je pense. Si vraiment, je trouve pas.
Khaled, lui, a toujours la moitié de son plein, mais pour être sûr de ne pas tomber en panne dans les prochains jours, il prendra le bus ce matin pour rejoindre le bar dans lequel il fait la plonge.
Je suis obligé pour prendre le transport. Je me réveille très tôt. Et donc, j'ai assuré que je serai à l'heure à mon travail. J'ai pas le choix. Moi, j'ai un problème de genou, je peux pas marcher beaucoup.
Mais d'autres ne peuvent pas se passer de la voiture pour aller travailler. C'est le cas d'artisans comme Lionel, couvreur en région parisienne. Bientôt, sans essence, il sera bloqué chez lui.
Sur mon utilitaire, j'arrive en réserve. Pour moi, c'est net, c'est ce qui me permet de travailler. Je peux pas prendre le transport avec tout mon matériel.
C'est mon travail, c'est mon gagne-pain. J'ai une petite fille, je sais pas ce que je fais. Je me mets au RSA.
Et Lionel est formel, il demande au gouvernement une réponse rapide dès aujourd'hui pour retrouver du carburant.
Un reportage Thibault.
Le mouvement entre dans sa troisième semaine. Total et Esso ExxonMobil tendent la main aux grévistes. Le gouvernement, de son côté, croise les doigts.
Et Total accepte d'avancer les négociations salariales, mais pose ses conditions. La levée du blocage, trois de ses six raffineries sont à l'arrêt. Chez Esso ExxonMobil, un premier round de discussion est également au programme de ce lundi. Conflit suivi de très près par le gouvernement qui craint la contagion, lui Dragnel. L'exécutif cherche la parade pour sortir de la crise au plus vite.
Eh bien, justement, le problème, comme le reconnaît en privé ce conseiller de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Au gouvernement, on considère que s'il y a ces pénuries de carburant, c'est de la faute de Total et des difficultés des relations sociales internes à l'entreprise. Le dossier est quand même géré à Matignon, qui a validé la libération de certains stocks stratégiques, c'est-à-dire les entrepôts de pétrole gérés par l'État et non par les compagnies pétrolières. Elisabeth Borne se veut optimiste. Depuis l'Algérie où elle était en déplacement, l'hôte de Matignon a promis hier une sortie de crise et une amélioration de la situation pendant la semaine. Elisabeth Borne fait le pari que la pression mise sur Total, qui a accepté d'avancer d'un mois ses cycles de négociations sur les salaires, aboutira à un geste de souplesse de la part de la compagnie pétrolière, ce qui peut d'ailleurs provoquer de l'inflation. Mais le problème politique est là. Une station-service sur trois en France est à sec. On monte même à 55% dans les Hauts-de-France, avec une opinion publique qui a du mal à comprendre comment on en est arrivé là, d'autant que cette crise n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Les automobilistes cherchent donc de l'essence. Les piétons franciliens, des bus ou des métros, pénurie de conducteurs, de machinistes et une augmentation annoncée du prix du pass Navigo. Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité doit en fixer le montant aujourd'hui.
Europe 1, il est 7h05. C'est un premier test pour le gouvernement privé de majorité absolue à l'Assemblée, vous le savez. L'examen du projet de loi de finances 2023, autrement dit le budget, débute aujourd'hui.
Les discussions s'annoncent déjà tendues. Plus de 3300 amendements déposés. Les débats pourraient s'éterniser et pousser l'exécutif à recourir au 49-3. Les députés examineront d'abord le volet recettes. La colonne dépenses, eh bien, ce sera pour plus tard. La question des niches fiscales devrait alors revenir sur la table. Elle coûte près de 90 milliards d'euros par an. L'État est régulièrement sommé de faire le ménage par la Cour des comptes. Mais cette fois, promis, ça va changer. Barthélémy Philippe.
On peut faire plus, on peut faire mieux.
Bruno Le Maire l'a reconnu lui-même, le gouvernement n'en fait pas suffisamment pour diminuer ses dépenses fiscales. Le budget pour 2023 supprime seulement 6 niches fiscales sur un total de 471. Il faut dire que les Français sont très attachés à certains dispositifs comme le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, un cadeau fiscal de près de 5 milliards d'euros par an pour les ménages. Mais le maintien d'autres niches fiscales ne se justifie pas, selon François Eycal, ancien magistrat à la Cour des comptes.
Je pense qu'on n'aurait pas dû, par exemple, baisser le taux de TVA sur les travaux d'entretien du logement ou sur la restauration. Ça n'a aucun intérêt en termes de redistribution, parce que les riches en profitent aussi généralement, et ça coûte cher et c'est peu efficace.
L'addition de ces deux dispositifs coûte près de 8 milliards d'euros par an à l'État. Au total, le manque à gagner des niches fiscales représente près de 90 milliards d'euros par an, soit 3,5% du PIB.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Voilà, c'est la compensation à ces dépenses fiscales d'avoir le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. À Alger maintenant, Elisabeth Borne entame la dernière journée de son déplacement. La Première ministre espère sceller la réconciliation entre la France et l'Algérie.
La chef du gouvernement et son homologue algérien Ayman Bedrahman ont présidé ensemble un comité intergouvernemental, sorte de conseil des ministres franco-algériens. Voilà pour le symbole. Sur le plan pratique, Elisabeth Borne n'était pas venue seule. Une quinzaine de ministres l'accompagnaient. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Français et Algériens ont conclu une douzaine d'accords.
Oui, des accords de coopération dans l'industrie, le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, la création de start-up ou encore la culture. L'occasion pour Elisabeth Borne de mettre en avant le signe fort envoyé par ce voyage, son premier à l'étranger.
Cette visite à Alger ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leur jeunesse.
Mais au-delà du symbole, il y a la présence de pas moins de 15 ministres français autour de la chef du gouvernement. Le bilan est finalement assez maigre. Pas d'annonce sur la question sensible des visas octroyés par Paris à l'Algérie. Rien non plus sur une éventuelle augmentation des livraisons de gaz vers la France. Ce dernier point a d'ailleurs été rapidement évacué par la Première ministre.
Nous allons poursuivre nos relations sereines sur le gaz avec l'Algérie.
Elisabeth Borne s'est par ailleurs dit confiante sur la création prochaine d'une commission réunissant des historiens des deux rives de la Méditerranée afin qu'ils examinent sans tabou les archives des deux pays. Elle conclura sa visite aujourd'hui, au programme notamment un déjeuner avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger.
On termine avec le football. Un retour à la fois très attendu, très commenté aussi, celui de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais.
Et l'ancien coach du PSG de l'équipe de France a signé pour deux saisons avec option pour une année supplémentaire. Il remplace Peter Bosz, fragilisé après une série de 5 matchs sans victoire. Laurent Blanc retrouve la Ligue 1 5 ans après une longue parenthèse, Martin Lange.
Oui, ça faisait plus de 6 ans que Laurent Blanc n'avait plus entraîné en Ligue 1. Et hormis une parenthèse de quelques mois au Qatar, le Sévenol ne s'est plus assis sur un banc de touche depuis ses années parisiennes. Une inactivité qui interroge forcément. Mais Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a toujours apprécié le champion du monde 1998, au point d'avoir déjà tenté de le recruter. C'est ce qu'il confie en début d'année à Cyril de la Morinerie.
Bien sûr que c'est un garçon qui a une expérience incomparable. Voilà, bon, les choses ne se sont pas faites pour les raisons que je vous ai expliquées. Sait-on jamais.
C'est désormais chose faite. Champion de France avec les Girondins de Bordeaux, puis avec le Paris Saint-Germain, Laurent Blanc n'a jamais connu l'échec en Ligue 1. Ça tombe bien, il doit s'atteler à une mission de taille, redresser un OL moribond, seulement 9e du championnat et qui reste sur une effrayante série de 5 matchs sans victoire. Pas de quoi effrayer le président. L'homme aime les missions délicates. En 2010, il était devenu sélectionneur de l'équipe de France quelques mois seulement après le fiasco de Naïsna.
Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Le Lille qui est sorti vainqueur du derby du Nord en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 des Lillois sur Lens.
Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, restez avec nous. L'édito éco de Nicolas Bouzou tient ce chiffre incroyable. 90% des chercheurs du CNRS sont hostiles aux OGM. Ça fait réagir Nicolas, c'est dans moins de 10 minutes.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Les pénuries de carburant en ce moment nous donnent peut-être un avant-goût des efforts qu'il va falloir consentir pour passer l'hiver. L'objectif fixé par le gouvernement, je vous le rappelle, c'est 10% de consommation en moins d'ici 2024. Ça revient à faire, je vous donne le chiffre, hein, ça revient à faire 30 fois mieux que ce que l'on a fait chaque année depuis 20 ans. On va prendre ce matin l'exemple du secteur du numérique. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, vice-président du MODEG, mais également, je signale aussi que vous avez été réélu député hier à l'issue du second tour d'une élection législative partielle dans les Yvelines. Peut-être voulez-vous en dire un mot ?
Bon, écoutez, c'est une satisfaction. C'est un score qui nous honore et qui nous engage à poursuivre le travail engagé. C'est aussi une lourde sanction pour la NUPES qui régresse de 7 points. Et c'est une sanction contre un comportement qui consiste à préférer le désordre au débat, l'outrance au dialogue et puis l'obstruction plutôt que le compromis. Donc tout ça, j'espère, appellera un certain nombre de mes collègues parlementaires à l'Assemblée nationale de la NUPES à un peu de responsabilité.
Alors d'ailleurs, je signale aussi que c'est votre suppléante donc, qui siégera au Palais Bourbon. Venons-en au plan de sobriété présenté mercredi dernier, Jean-Noël Barrot. Le numérique, évidemment, est évidemment dans la boucle. Quels engagements le secteur va-t-il prendre? Et qu'est-ce que vous, gouvernement, attendez de la filière du numérique qui, par définition, est un gros consommateur d'électricité, hein?
Oui, je crois qu'on attend de ce secteur, comme de l'ensemble des secteurs, les efforts nécessaires à réduire la consommation énergétique pour que la France diminue de 10% cette consommation à l'horizon des 2 ans et que nous puissions traverser cet hiver et peut-être l'hiver prochain sans avoir à prendre des mesures de dernier recours. Et s'agissant du numérique, les acteurs ont avant l'été pris de premiers engagements s'agissant de la lumière dans leur bureau, dans leur commerce, mais aussi de la température dans leur bureau. Oui. Et ils ont pris de nouveaux engagements sur la mise en veille automatique des box, sur la réduction de la consommation électrique de leur réseau, et puis pour certaines entreprises du numérique également, l'engagement de faire un bilan carbone dès l'année 2023 pour être en mesure de réduire effectivement leur consommation.
Alors les box notamment, alors ça en l'occurrence ce sont les opérateurs télécom, est-ce que ce sera transparent pour le consommateur? Est-ce que lui va voir une différence dans l'utilisation de sa box internet? Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l'opérateur?
Oui, c'est l'objectif.
Arrêt internet la nuit alors.
C'est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd'hui des box, des décodeurs qui se mettent en veille automatiquement, mais tout cela n'est pas tout à fait uniforme et donc les engagements pris par le secteur, eh bien c'est soit pour les box existantes déjà installées, eh bien de faire une mise à jour qui permette cette mise en veille de manière un peu plus systématique, soit pour les nouvelles box qui seront distribuées, qui seront vendues, que cette mise en veille soit installée par défaut pour que ça soit transparent effectivement pour les Français.
Alors il y a le secteur, ce qu'on appelle les data centers, c'est-à-dire vraiment les centres de données. Là, on imagine que c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en l'occurrence, il faut une alimentation électrique en continu pour que cela fonctionne. Ils se sont engagés à s'effacer. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire s'effacer. C'est un terme qu'on va beaucoup entendre. C'est-à-dire de se déconnecter du réseau, en fait, hein, tout simplement, et de brancher à la place des générateurs électriques qui fonctionnent à quoi? Souvent au diesel. Alors là, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est la sécurité d'approvisionnement avant tout? Et tant pis pour le bilan carbone, vu la situation.
Oui, alors il y a deux choses qu'ils se sont engagés à faire, les data centers. La première chose, c'est de réduire la climatisation dans les salles de serveurs. Ces serveurs, ils chauffent, il faut les refroidir et donc ils vont faire un effort en baissant la climatisation, ce qui va permettre de réduire la consommation énergétique.
C'est pas périlleux pour justement les serveurs eux-mêmes?
Non, je crois que là, l'effort qui est fait ne met pas en difficulté la sauvegarde des données. Ensuite, vous avez raison, dans le cas où nous serions amenés à prendre des mesures un peu plus importantes, ils seraient en capacité de s'effacer, c'est-à-dire de basculer du réseau vers des générateurs. Alors évidemment, ce n'est pas une solution idéale. Ce n'est pas une solution de long terme.
Puisque c'est périlleux d'ailleurs, parce que le générateur, c'est la roue de secours pour le data center. Si la roue de secours crève, on est mal.
C'est de passer sur une roue de secours, mais ce n'est pas idéal parce que la roue de secours, comme vous l'avez dit, elle fonctionne en général avec une énergie carbonée. Et ce que nous voulons à terme, c'est décarboner intégralement le fonctionnement des data centers et d'aller plus loin, puisque les data centers travaillent en permanence à essayer d'optimiser leur fonctionnement pour réduire leur consommation électrique. Et à long terme, nous souhaitons qu'ils puissent le faire au maximum. Mais cet hiver, en tout cas, baisse de la climatisation dans les salles de serveurs et le cas échéant, c'est-à-dire si ça s'impose, un effacement temporaire pour réduire la ponction énergétique sur le réseau.
Ça représente quoi le secteur du numérique en termes de consommation électrique, Jean-Noël Barrot?
En consommation électrique, c'est 10% de la consommation électrique du pays.
Ah oui, tout de même.
Et oui, et donc c'est pour ça qu'il faut faire cet effort.
Et vous leur demandez quel effort de diminuer par un tiers, par deux leur consommation?
Alors c'est difficile de le dire exactement, mais c'est l'ordre de grandeur.
Ou 10%.
Oui, C'est ça, voilà. C'est l'ordre de grandeur qu'on s'est fixé pour la nation dans son ensemble, c'est-à-dire à peu près 10% à l'horizon des deux ans.
Alors, il y a un autre sujet, évidemment, pour les entreprises du numérique. Cela vous concerne, Jean-Noël Barrot, c'est dans votre périmètre, c'est la question du prix. Je vous donne l'exemple de Laurent Vronsky, le patron d'Hervor. Alors, lui, il fabrique des compresseurs, hein. C'est pas le secteur du numérique, mais bon, il est client des énergéticiens. Lui dit, c'est simple, mon mégawattheure, je le payais 50 euros l'année dernière. Là, son énergéticien va le contacter, c'est 3000 euros le mégawattheure. C'est fois 60. Comment on fait ?
Ben, c'est ce que le président de la République, avec Bruno Le Maire, est en train de faire au niveau européen, c'est-à-dire de mettre fin à cette situation très conjoncturelle, mais très inquiétante pour les acteurs du secteur du numérique comme pour d'autres, du fait de la très forte hausse des prix du gaz.
Qu'est-ce que vous demandez à Bruxelles très concrètement là ?
Ah ben, ce qu'on demande, c'est de pouvoir mettre fin, si l'on peut dire, au couplage du prix du gaz et de l'électricité, de fixer un cap aussi pour faire en sorte que la pression baisse et que les prix diminuent. Parce que vous avez cité les entreprises du numérique, mais j'ai aussi dans ma circonscription beaucoup de petites entreprises, des TPE, des PME, parfois des boulangeries, et même un moulin à Versailles.
Mais si vous demandez aux énergéticiens, si vous capez les prix, vous dites vous n'avez pas le droit de vendre plus cher, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés liquides type le GNL? Les bateaux vont aller ailleurs qu'en Europe en se disant les Européens ne veulent pas le payer le plus de 180 euros. Bon, très bien, allons ailleurs.
C'est vrai si nous négocions...
Donc les prix ou la pénurie,
c'est
en fait.
C'est vrai si chaque nation, chaque État membre de l'Union Européenne négocie dans son coin. Mais si l'Europe parle d'une seule voix, et c'est ce que nous avons fait depuis quelques mois sur la dette, sur les vaccins, si l'Europe parle d'une seule voix, alors elle peut avoir un impact sur les prix. C'est le pari du président de la République qui, à mon avis, va fonctionner parce qu'il a fonctionné ces derniers mois sur d'autres grands défis. Et je suis sûr que nous parviendrons dans les semaines qui viennent à faire baisser la pression sur les prix de l'énergie en Europe.
Merci Jean-Noël Barrot d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Bonne journée à vous.
À vous aussi.
Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors, vous avez été surpris par un sondage réalisé auprès des collaborateurs du CNRS.
Oui, on a surpris, vous le dites gentiment, j'ai été passablement inquiété par ce sondage qui a été réalisé par l'IFOP auprès des personnels du CNRS, donc des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens aussi. Ça apporte un éclairage saisissant sur le déni de science chez une partie des scientifiques et des gens qui travaillent pour la science. Je vous donne quelques résultats rapidement. 90% des personnes interrogées au CNRS jugent acceptable le boycott des produits alimentaires contenant des OGM. 45%.
Vous avez dit 90%.
90%, je ne me suis pas trompé. 45% sont pour la destruction des plans en plein champ, 65% sont contre la pose d'antenne téléphonique, un tiers contre l'obligation vaccinale, j'en passe, et pas des meilleurs. Alors que des poncifs zadistes sur la dangerosité des OGM ou de la vaccination émanent de scientifiques, les bras nous en tombent.
Comment vous expliquez ça, Nicolas ?
On en vient à se poser des questions sur le CNRS. Il y a beaucoup de gens, évidemment, de très grands talents au CNRS. Le prix Nobel de physique, d'ailleurs, 2022, qui a été décerné à Alain Aspect. Alain Aspect est directeur de recherche émérite au CNRS. Mais le CNRS est une institution sous-dotée. Le budget 2022 était de 3,8 milliards d'euros. Un élément de comparaison, le budget R&D, recherche et développement d'Amazon, c'est 60 milliards. C'est plus du double du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les chercheurs du CNRS sont assez peu payés, alors qu'ils sont très diplômés, évidemment. Les salaires vont de 2300 euros brut pour un chargé de recherche de classe normale à 6450 bruts pour un directeur de recherche. Bon, pour des gens qui sont censés travailler énormément, ça fait des salaires horaires très faibles. Ça génère deux problèmes, ça n'attire pas les meilleurs, je suis désolé de le dire aussi brutalement, et puis ça peut créer du ressentiment vis-à-vis de la société, ressentiment qui peut aller jusqu'à l'anticapitalisme et à la décroissance.
Voilà, le CNRS n'est pas la cause unique de nos insuffisances en matière scientifique, Nicolas.
Évidemment, c'est un état d'esprit général qui est en cause, qui a plusieurs matérialisations, la baisse du niveau en mathématiques par exemple, attestée par tous les classements internationaux, le faible effort de recherche et développement de la sphère publique, la politisation de la science avec l'écologie politique ou certaines ONG qui refusent le nucléaire pour lutter contre les émissions carbone. C'est la dévitalisation scientifique qui nous guette en conséquence de ce relativisme avec à la clé un appauvrissement général et une perte de puissance géopolitique.
Il faut mieux payer nos chercheurs.
Ça ne fait aucun doute.
Ça commence par là. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.
Merci.
7h23.
Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
La situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Promesse d'Elisabeth Borne hier. Alors que les automobilistes ont de plus en plus de mal à trouver du carburant, près de 60% des stations sont à sec dans les Hauts-de-France, 50% en région parisienne. Conséquence du manque de carburant, la majorité des cars scolaires en Essonne et Seine-et-Marne est annulée. Aujourd'hui, annonce de la société Les Cars Bleus. Un accident de chasse hier dans la Drôme. Un cueilleur de champignons Avignon a été touché par un tir. Son pronostic vital est engagé. Le chasseur a été placé en garde à vue. Et puis Laurent Blanc, nouvel entraîneur de l'OL. L'ancien sélectionneur des Bleus vient de signer un contrat de 2 ans à Lyon. Franck Passy devient son entraîneur adjoint.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
C'est le coup d'envoi ce lundi de la semaine du goût. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
On va se replonger grâce aux archives d'Europe 1 dans les chroniques d'une grande voix de la station, Pierre Bonte, qui pendant des années a emmené les auditeurs d'Europe 1 à la découverte des terroirs français.
Oui, pendant 15 ans, il a parcouru près de 4000 communes, sillonné la France entière. En décembre 1969, l'animateur de Bonjour Monsieur le Maire se trouve dans le Périgord à Thiviers où il parle de truffes.
Ici Pierre Bonte. À propos des truffes, signalons que pour les rechercher, l'on continue d'utiliser les truies. Et Monsieur le Maire, Monsieur Émile Combelat, nous a appris qu'il existait, pour ce faire, des équipes spécialisées, tout comme en matière de déminage.
Ce sont des personnes qui ont une truie qui a été dressé spécialement et qui vont les chercher chez les gens, ce qu'ils leur demandent.
Tous les matins, des millions de Français se sont réveillés avec Europe 1 et la voix chaleureuse de Pierre Bonte. En 1965, il est à Piégut-Pluviers en Dordogne, où le champignon est roi, et le maire lui donne la recette du champignon farci.
Et il est farci avec quoi ?
Ben, il est farci avec du champignon haché, un peu de farine, du lard, de l'ail et certaines herbes que l'on trouve dans notre région, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Mystère, mystère. Mais c'est vrai qu'avec les émissions de Pierre Bonte, les auditeurs découvraient de bonnes recettes locales aussi.
Ah, l'égence, hein, comme dit le monsieur. Pierre Bonte, dans ses émissions, transmet aussi quelque chose de très chaleureux, d'authentique. Et ça, ça a beaucoup marqué la radio de cette époque. Hein.
Oui, c'est vrai. Il se permet toutes les libertés, comme pendant cette émission de 1961, où il énumère les rues d'Issoudun au nom curieux.
Il y a la rue Percée, la rue du Bas-le-Temps, la rue des Champs d'Amour, la rue à chercher. Bref, cette petite ville de l'Indre possède sans doute la plus belle collection de noms de rues insolites.
En mai 65, Pierre Bonte est dans le Rhône, au pays du Beaujolais.
Un petit chameau, c'est un chamelet. Eh bien, chamelet, le village du Beaujolais où nous sommes ce matin, s'écrit de la même façon, C-H-A-M-E-L-E-T. Pourtant, s'il faut en croire monsieur le curé, l'origine du nom de la commune ne devrait rien à ce sobre animal. Dans le Beaujolais d'ailleurs, ça m'aurait étonné.
De l'humour, encore une fois, chez Pierre Bonte qui disait aussi qu'à ses yeux, le vrai sens du collectif, le vrai dévouement se trouvait dans les villages.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et on salue Pierre Bonte qui de temps en temps tend une oreille. Écoute encore un peu Europe 1, il a bien raison. À suivre alors des pompes à sec. Faut-il accorder la priorité aux ambulances et aux routiers dans les stations-service à Anissa Haddadi aussi peut-être pour venir vous faire la météo le matin, ça arrive. Reportage dans le journal de Romano Kay qui arrive, tout chaud à la table de votre petit déjeuner. Bon réveil et bon lundi sur Europe 1, 7h26.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Le pouvoir d'achat des Français, ce sont eux qui en parlent le mieux. Vos caissiers et caissières en première ligne face à la hausse des prix. Reportage dans un supermarché alsacien dans un instant. Vous êtes peut-être coincé dans la file d'attente d'une station-service. La galère continue ce matin pour les automobilistes en quête de carburant. La CGT doit trancher aujourd'hui sur la suite de la grève. Et puis, premier test pour l'exécutif. Le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée nationale face aux oppositions. Le scénario d'un recours au 49.3 se précise oui mais quand ? Réponse dans cette édition.
Europe 1.
Le journal Romano Kay. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez supprimé dans votre chariot de course ? Il y a peut-être la viande, le fromage, les légumes. Ce n'est pas qu'un ressenti. Les achats du quotidien décrochent. Moins 3,5% pour la dernière semaine de septembre. Chiffre de l'IRI, institut spécialisé dans l'étude de la consommation. Un panier allégé à mesure que l'inflation pèse dans votre budget. Plus 10% pour l'alimentation sur un an.
Et dans la grande distribution, une profession est aux premières loges face à la flambée des prix, les caissiers.
Oui. Des hommes et des femmes que nous sommes allés rencontrer, témoins des angoisses de leurs clients. Bureau des plaintes aussi à la remise du ticket de caisse. Illustration dans ce supermarché alsacien avec la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin.
Les boîtes pour les chiens, ils étaient à 5 euros, maintenant ils sont à 6 euros.
Des remarques comme celle-ci, Agnès en entend de plus en plus souvent. Caissière à l'Intermarché d'Oberhausbergen depuis 10 ans, elle a l'habitude d'être une oreille attentive pour ses clients, mais avec l'inflation, la situation devient parfois pénible.
Là, on le voit tous les jours. Hein. La semaine dernière, je l'ai acheté à ce prix-là, et maintenant il est à ce prix-là. Ça, c'est régulièrement. Hein.
Et puis même quand il y a des produits en promo qui passent pas, c'est pareil. C'est toujours les caissières qui prennent. Après, nous, on leur dit on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. On a le droit à tout en caisse, comme remarque. Ouais, c'est pesant. Bonjour, monsieur.
Mais le prix, ça augmente, hein, à cause de l'Ukraine. Mais c'est pas normal, ça vient pas de la guerre.
Je sais pas, je pense pas tout, hein.
Malgré tout, Agnès aime toujours son travail, le contact avec ses clients réguliers.
Et regardez les petits légumes que je prends. Une pomme avec mon mari à deux. On ne mange qu'une fois par jour.
Oui, c'est pas évident. Hein.
Et plus que de l'agacement, c'est souvent de la compassion qu'elle ressent pour eux. Aubert Rosbergen, Mélina Fachin, Europe 1.
Faire ses courses en respectant tant bien que mal son budget, c'était peut-être votre défi ce week-end. En voici un qui dure depuis des jours. Trouver du carburant, plus d'une station-service sur trois à sec en France.
Oui, c'est même la moitié des stations à sec dans le Nord, les Hauts-de-France, hein, et la région parisienne. La seule issue, c'est la fin de la grève. Hein. La CGT doit se prononcer aujourd'hui.
Et la direction a déjà tendu la main au syndicat. D'accord pour avancer les négociations salariales dès ce mois-ci, à une condition, la fin des blocages. Une pénurie qui pénalise d'abord et avant tout les médecins, infirmiers, ambulanciers, tous ces professionnels de santé qui sillonnent les routes pour vous, Chloé Lagadou.
Avec des réservoirs remplis au compte-gouttes, Bruno, ambulancier dans la Somme, est obligé de faire un tri dans sa patientèle. Il privilégie les rendez-vous quotidiens de chimiothérapie et de dialyse et refuse à contre-cœur les nouveaux patients.
Des patients qui appellent pour du transport assis à la dernière minute. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de refuser des transports. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire l'aller-retour sans être obligé de laisser un véhicule sanitaire sur le bord de la route.
Alors pour honorer le plus de rendez-vous possible, Bruno optimise toute la place dans son ambulance.
Pour tout ce qui est le transport assis, nous avons le droit de prendre en charge 3 patients en même temps dans le véhicule. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum afin de limiter les trajets à vide.
Du côté des soignants, on fait tout pour économiser l'essence. Les professionnels limitent leur trajet personnel, explique Sophie Bauer, secrétaire générale du syndicat des médecins libéraux.
Un grand nombre d'entre nous ont annulé leur week-end de façon à économiser le carburant. Le but, c'est de continuer à soigner nos patients.
En attendant un retour à la normale, les professionnels de santé espèrent la mise en place d'un dispositif qui leur permettra d'être prioritaire à la pompe.
Une mesure justement déjà actée dans le Pas-de-Calais, l'Oise, la Somme ou l'Aisne. À noter qu'en Essonne et en Seine-et-Marne, la majorité des cars scolaires est supprimée ce matin faute de carburant.
Allez, pour tous les automobilistes, la Première ministre a promis des améliorations grâce au prélèvement dans les stocks stratégiques, annonce depuis l'Algérie où Elisabeth Borne est en visite jusqu'à ce soir.
Oui, la chef du gouvernement attendue à Paris pour suivre une bataille corsée du côté de l'Assemblée nationale. Le budget 2023 arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Projet de loi de finances que l'opposition ne votera pas. Blocage annoncé avec un scénario désormais inévitable, Alexandre Chauveau, celui du recours au 49-3.
Oui, conséquence directe de l'absence de majorité absolue pour l'exécutif. Cette fois, le gouvernement ne pourra pas s'appuyer sur les Républicains qui se sont déjà prononcés contre le budget. Le 49-3 pourrait ainsi être utilisé en fin de semaine et évoqué dès ce mercredi en Conseil des ministres, étape indispensable avant d'y avoir recours dans l'hémicycle. Emmanuel Macron pourrait par conséquent l'annoncer le même jour, à l'occasion de la nouvelle émission politique de France 2 dont il est l'invité. Alors au sein de la majorité, personne ne se fait d'illusions sur le recours au 49-3, mais le calendrier divise. Plusieurs cadres plaident pour son utilisation rapide au regard des positions connues des différents groupes. D'autres sont partisans d'une méthode plus constructive en laissant sa chance au dialogue afin de justifier son très probable usage par l'obstruction attendue des oppositions. Le texte en tout cas mobilise l'ensemble des députés qui ont déposé de très nombreux amendements, plus de 3500 exactement. Illustration d'une volonté de participer au débat pour les uns, de faire de l'obstruction pour les autres.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. 7h36, enfants et sans-abri, deux mots qui paraissent tout simplement inconciliables. Et pourtant, c'est le cas de 42 000 mineurs en France, chiffre issu d'un rapport de l'UNICEF et du SAMU social publié aujourd'hui.
Des enfants baladés, d'hébergement d'urgence en abri de fortune, une précarité matérielle, affective également, avec des conséquences sur les liens familiaux. Yasmina Katou.
Des familles de 3, 4, voire 5 personnes dans des chambres d'hôtel de 15 mètres carrés. Une enfance rythmée par le passage d'un hébergement d'urgence à l'autre. La promiscuité, les problèmes de scolarisation perturbent les enfants, décrit Vanessa Benoît, directrice du SAMU social.
La première chose qui est très anxiogène pour les enfants, c'est de changer régulièrement de lieu. La deuxième chose, c'est de voir que leurs parents sont inquiets ou tristes. Quand on est enfant, on ne sait pas gérer la souffrance de ses parents et les enfants y sont confrontés en permanence. mais c'est très contraignant pour un enfant.
Les familles vivent en moyenne 2 ans et demi à l'hôtel dans des espaces qui ne sont pas pensés pour les enfants. Une vie chahutée, morcelée qui peut durer 10 ans dans certains cas. Adeline Azan, présidente d'UNICEF France, plaide pour des solutions pérennes.
Garantir un accueil absolument inconditionnel des familles avec enfants dans des structures qui sont adaptées. D'avoir une politique de construction, de mise à disposition de logements abordables pour des familles.
L'offre de soins est aussi pointée du doigt par l'UNICEF. La France compte à peine 2000 pédopsychiatres. C'est un tiers de moins qu'il y a 20 ans.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. 7h37, une forêt de grues en Seine-Saint-Denis. Une quarantaine occupe le ciel du département qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris. Fin de chantier avant le 26 juillet 2024. Europe 1 a pu visiter 2 sites majeurs, le futur village olympique et le centre nautique. Le reportage d'Axel.
Le centre aquatique olympique est en train de sortir de terre à Saint-Denis, au bord de l'autoroute A1, face au Stade de France. Quentin Gézel est vice-président de la métropole du Grand Paris.
On voit tous les plongeoirs qui sont déjà en place, avec la fosse qui est en dessous, qui est en train d'être terminée. On a la vue aussi sur le bassin olympique de 50 mètres qui est juste devant nous. Voilà les gradins qui sont autour, qui commencent à être déployés aussi. Et on peut très bien s'imaginer en 2024 avec les différentes compétitions de water polo, de plongeon et de natation synchronisée.
Parmi les autres chantiers les plus emblématiques en cours, l'aréna de la Porte de la Chapelle à Paris, le centre des médias au niveau du Bourget et le village des athlètes à cheval sur 3 communes de Seine-Saint-Denis. Armel Richardot supervise les chantiers pour le compte de la Solideo, la société chargée de livrer les ouvrages olympiques.
Un certain nombre de chantiers sont lancés. Il y a à peu près 45 chantiers qui sont en travaux. Les délais sont respectés et donc on est dans des livraisons entre dernier semestre 2023, premier trimestre 2024.
Quant à la part d'argent public, elle devrait augmenter pour tenir compte de l'inflation, passant d'1,5 milliard à 1,8 milliard d'euros.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Romane. Ok, c'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure à 9h. Allez, à suivre sur Europe 1, l'édito international, l'explosion du pont de Crimée ce week-end. Peut-être avez-vous les images, elles sont impressionnantes. Qui a fait le coup? Vincent Hervouet enquête dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Dimitri. Nouveau Tatiana de René, ça fait plaisir le lundi matin, ça me met de bonne humeur.
Et Louise Goua pour la série de la semaine.
Bonjour Dimitri.
Coupole sur la tête ce matin. Hein.
C'est ça, on parle de l'éclosion de la culture rap et hip-hop en France dans les années 80.
Voilà, mais d'abord, bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri.
Avec vous l'édito international sur Europe 1, Vladimir Poutine va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité au lendemain de l'explosion qui a frappé le très stratégique pont qui relie la Crimée et la Russie. Le président russe accuse les Ukrainiens de terrorisme.
Oui, le pont de Kerch a une importance stratégique et surtout symbolique. Poutine l'a voulu, il l'a inauguré, il a même été le premier à l'emprunter au volant d'un camion. Tout le week-end, les dirigeants ukrainiens se sont mordus les lèvres pour ne pas hurler de joie. Ils ont revendiqué le coup à demi-mot, puis ils ont démenti mollement. Et finalement, ils ont accusé les services secrets russes de s'être livrés à un règlement de compte obscur. C'est le détail qui tue, c'est le retour du syndrome libanais.
C'est-à-dire, Vincent?
Mais dans les années 80, le Liban était la foire d'empoigne des milices, des voisins, des parrains de la région, des grandes puissances. La guerre de tous contre tous. J'avais là-bas un ami très intelligent, on va l'appeler Joe. Joe est un professionnel du renseignement, expert en mort violente. Joe m'expliquait après chaque attentat que celui qui avait fait le coup n'est pas celui à qui il profitait, mais un troisième qui voulait incriminer le suspect le plus évident, ou encore un quatrième qui voulait aggraver le chaos. Cette mise en abîme vertigineuse, c'est le syndrome libanais. Aujourd'hui, il y a un syndrome ukrainien. Alors, quand le pont de Crimée saute, Kiev accuse les services russes, sans rire. Quand les lignes électriques qui alimentent la centrale nucléaire de Zaporijjia et assurent le refroidissement du réacteur sont coupées, Kiev prétend qu'elles ont été bombardées par les artilleurs russes. Ils mettent en danger l'installation qu'ils occupent et qu'ils viennent d'annexer. On n'est pas plus maladroit. Quand une journaliste est assassinée à côté de Moscou, encore les services russes. Ils visaient son père, Alexandre Douguine, un intellectuel qui inspire Poutine, mais qui n'est pas monté dans la voiture piégée. La presse française reprend cette théorie et enterre la consoeur sans verser une larme. Quand Nord Stream 1 et 2 sont sabotés en mer Baltique, envoyant par le fond 13 milliards de dollars et créant l'irréversible. Encore un coup des Russes.
Je vous sens sceptique, Vincent.
Ben, les affaires libanaises ont fini par être élucidées. 10 ans après, les témoins parlent, les archives s'ouvrent. Et l'hypothèse la plus simple, c'est toujours vérifié. Ce sont bien les Syriens qui ont tué Béchir Gemayel. Ce sont bien les forces libanaises qui ont fait sauter l'hélicoptère du Premier ministre Rachid Karame. Et ce sont bien les Iraniens et le Hezbollah qui ont pulvérisé Rafik Hariri, etc., etc. Le New York Times, citant des sources du renseignement américain, a rapporté que les services ukrainiens avaient tué Daria Dugin et raté son père. On comprend que les Ukrainiens détestaient le vieux théoricien du panslavisme qui prétend que leur nation n'existe pas. De là à mettre une bombe dans sa voiture, il y a un pas que les démocraties s'interdisent de franchir. C'est du terrorisme d'État. S'il s'avère que pareillement, les services américains ou occidentaux ont saboté les gazoducs, ce qui serait d'ailleurs logique, mais sans précédent, on saura que désormais toutes les provocations sont permises et que Poutine n'est pas le seul à jouer avec le pire.
Signature Vincent Hervouet, tiens, quelles conséquences aussi on peut se demander de l'attaque du pont en Russie? On a appris ce matin la démission du chef d'état-major des armées, enfin le limogeage du chef d'état-major des armées, le général Valéry Gerasimov. Est-ce que le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, sera le suivant? C'est ce que disait Evgeny Prigogine hier soir, mon cher Vincent, à suivre. 7h46.
Europe Matin.
Nicolas Caro, notre page culture s'ouvre avec vous ce matin. Vous nous parlez donc du nouveau roman de Tatiana Doronet.
Nous irons mieux demain, c'est le titre chez Robert Laffont. L'histoire de Candice. Candice Louradour, 28 ans, elle est séparée avec un enfant, elle travaille à Paris. Elle est ingénieure du son, son truc c'est d'enregistrer des audiolivres. Elle marche un soir, le ciel est bas, l'ambiance un peu grise, voyez, en rentrant du boulot. Et puis, il y a un attroupement devant le passage piéton, vous savez, en attendant que ça passe au vert.
Oui, ça déborde un peu sur la route souvent. Hein.
Voilà, et ça ne manque pas. Candice est témoin d'un terrible accident. Une femme est renversée puis projetée. Elle se retrouve à terre au passage. Tatiana Doronet décrit très bien cette situation avec les gens qui s'agglutinent mais qui ne font rien, ceux qui filment Burke et ceux qui disent « mais appelez les pompiers » au lieu de les appeler eux-mêmes directement. Candice, elle, porte secours à la dame, elle est grièvement blessée mais sa seule obsession c'est de retrouver ses boucles d'oreilles qui se sont décrochées pendant la chute. Candice cherche partout, les badauds aussi, et puis on les retrouve et la dame part avec les pompiers direction l'hôpital Cochin. Ça la travaille, Candice, à l'air, elle voudrait vraiment savoir si elle va bien, je vous la fais courte. Candice la retrouve, elle s'appelle Dominique Marquisan et malheureusement elle a perdu sa jambe dans la bataille d'Urdur.
C'est leur relation hein, que le roman décrit.
Pas seulement. Loin de là, Tatiana Doronet lance sa toile dans tous les sens. Toutes les pistes s'ouvrent au début et elles trouveront toute une résolution. Mais pour l'instant, donc, Candice accompagne Dominique. Elle la visite de temps en temps et un jour, Dominique demande à Candice si elle ne pourrait pas aller au 66 rue Saint-Lazare à Paris. C'est chez elle pour récupérer quelques affaires.
Vous nous donnez l'adresse exacte, là ?
Parce que ce n'est pas n'importe quelle adresse. Le 66 rue Saint-Lazare, c'est là où vivait la maîtresse de Zola, avec qui il a eu deux enfants. Et à un moment, je lisais tranquille et ce bout de papier est tombé du livre. Je me suis dit, tiens, Tatiana Doronet m'a écrit un petit mot, c'est gentil. Mais non, c'est un manuscrit, une copie de Zola, une petite lettre d'amour à sa maîtresse Jeanne. Et ce bout de papier a été retrouvé par Dominique chez elle à l'occasion de travaux. Donc on suit la relation entre Dominique et Candice, l'histoire de la vie et de la mort étrange de Zola et d'autres intrigues comme le deuxième portable retrouvé dans les affaires du père disparu de Candice et surtout de ce qu'elle y trouve, mais je m'arrête là.
C'est authentique ce petit mot-là ?
Non.
Non. Ah oui. Intéressant quand même.
Mais
en tout
elle
cas.
Connaît très très bien l'histoire de Zola. C'est une fan absolue de Zola, Tatiana Doronet.
Voilà. Nous irons mieux demain donc.
Et ma gorge aussi, j'espère.
Effectivement, le nouveau Tatiana Doronet, c'est chez Robert Laffont. Héloïse Goy, la série de la semaine, on va parler hip-hop, rap avec la série française qui a déjà remporté le grand prix au festival Sérimania.
Eh oui, Le Monde de Demain, c'est le titre de cette série très attendue qui mérite largement ce grand prix. Je vous préviens, je vais être dithyrambique. Les épisodes nous plongent dans les années 80 à Paris et en banlieue pour nous raconter une jeunesse qui danse le breakdance, qui graffe les murs de sa ville et qui rappe tout ce qu'elle a sur le cœur. Alors pour illustrer l'éclosion de cette culture rap en France, les cinéastes Catel, Kiévéré et Élie Cisterne ne s'inspirent pas de n'importe qui. On suit notamment deux jeunes copains de Saint-Denis dont les voix vous sont certainement devenues familières. Dans ta Benz, Benz, quand tu boites, ton bon bas à mon gang, 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 kilo.
Ça se passe à l'arrière du Merco Benz. Mais le monde de demain, faut rappeler quand même que c'est le premier single de NTM.
Exactement, vous reconnaissez dans ce son et avec le titre exactement, le groupe Suprême NTM. Là, on entendait le titre Ma Benz. Alors tous les personnages et les histoires de cette série sont inspirés de témoignages de ceux qui se feront connaître sur la scène musicale hip-hop à cette époque. Didier et Bruno, alias Joey Star et Cool Chain que vous venez d'entendre. On voit aussi le DJ Dynasty ou la graffeuse et danseuse Lady V. Alors on accompagne ces adolescents dans leurs doutes, dans leurs déséquilibres familiaux, mais surtout, on les suit dans leur désir de reconnaissance.
Nous, on a quoi, nous? Un pauvre terrain vague cradingue? Un pauvre lino?
Ouais, en fait, on attend de se faire mater le cul par les riches, quoi.
Et nos darons, là, qui flippent qu'on galère toute notre vie comme eux.
Et même le pire, c'est que des fois, c'est eux qui te mettent dans la merde. Tu vois, moi, mon père, c'est lui qui, à chaque fois que je vais à la maison, me défonce pour un rien, tu vois.
Quoi, le projet, maintenant?
Le projet? C'est conquérir Paris, mon pote.
C'est qu'on ne sait pas d'être prêt, c'est d'être là.
Cet extrait que vous venez d'entendre, c'est une conversation entre Didier et Bruno. Et les acteurs qui incarnent ceux qui deviendront Joe Star et Cool Chen réalisent une prestation exceptionnelle. On a l'impression de voir les vrais à l'écran. Ils s'appellent Melvin Boomer et Anthony Pajon. Il faut les suivre de très très près. Le monde de demain, c'est une plongée nostalgique dans une époque où les coupes mulets sont de sortie et de toute beauté. C'est aussi une série musicale avec une belle BO. Que vous aimiez ou non le rap et le hip-hop, c'est passionnant de voir les racines d'un genre qui est devenu majeur aujourd'hui. Et puis enfin, le monde de demain, c'est une série d'apprentissage sur des adolescents attachants, prêts à tous les efforts pour briser le plafond de verre. C'est émouvant, c'est fin, c'est poétique. L'une des meilleures séries françaises de la rentrée pour moi.
Voilà, le monde de demain, où est-ce qu'on peut la voir?
Les 6 épisodes arrivent aujourd'hui sur arte.tv, c'est gratuit. Et la série sera diffusée sur Arte, la chaîne, à partir du 20 octobre prochain à 20h55.
Merci beaucoup Héloïse Goy, merci Nicolas, merci Vincent. À demain, 7h51.
Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
Une station sur 3 manque de carburant en France, chiffre du gouvernement. Elisabeth Borne veut rassurer. Selon la Première Ministre, la situation va s'améliorer tout au long de la semaine avec le déblocage des stocks stratégiques. Sous tension, l'Assemblée commence aujourd'hui l'examen du budget 2023. Sans majorité absolue, le gouvernement pourrait le faire passer de force. Les députés devraient s'attaquer demain aux plus de 3000 amendements. Début aujourd'hui, 13 ans après du procès du crash du Rio Paris, 228 morts ce 1er juin 2009. Airbus et Air France sont jugés pour homicide involontaire. Et puis, il encourt 140 ans de prison. Le producteur de cinéma déchu, Harvey Weinstein, est jugé aujourd'hui pour viol et agression sexuelle à l'occasion d'un nouveau procès à Los Angeles.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, l'Assemblée nationale va se pencher sur le budget 2023. Depuis les élections législatives, Emmanuel Macron est parvenu, par des projets de loi consensuels, des vacances prolongées, à repousser les vraies batailles parlementaires. Bon voilà, nous y sommes. Hein.
Oui, ça y est, hein, la bataille du budget commence et avec elle, la politique reprend ses droits. Mais en fait, on connaît déjà les grandes lignes de l'histoire. Le gouvernement va présenter devant une assemblée fragmentée un budget qui ne satisfait personne. Il y aura des débats, il y aura des effets de manche, il y aura des milliers d'amendements. Et on sait déjà qu'à la fin, le 49-3 mettra fin au blocage. La seule inconnue, en fait, est de savoir quand il sera dégainé, ce 49-3. Mais au fond, entre nous, hein, Dimitri, tout le monde a la tête ailleurs. Derrière le budget 2023, c'est bien la présidentielle de 2027 que l'on pense. Chez Mélenchon, chez Marine Le Pen, chez Laurent Wauquiez bien sûr, mais aussi, et c'est plus problématique pour le chef de l'État, dans sa propre majorité. Puisque Macron ne pourra pas se représenter, les ambitions désormais s'affichent au grand jour. Et je trouve que ça va quand même très vite. Nous sommes en octobre 2022, au début d'un mandat qui a à peine 6 mois. Et on a parfois le sentiment que la fin de règne a déjà commencé.
Vous avez raison, la présidentielle, c'est dans 4 ans. On ne va pas un peu vite, là?
Moi, je me contente de suivre le rythme des ambitions qui s'expriment. Hier, dans Le Parisien, Édouard Philippe s'est affiché franchement comme candidat à la succession d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire est plus discret sur ses ambitions, mais il semble décidé à apparaître comme le dauphin naturel du chef de l'État. On pourrait aussi évoquer Gérald Darmanin, qui ne s'interdit rien. Yael Braun-Pivet, qui ne cache pas son envie. Gabriel Attal, dont les ambitions sont grandes. Et même François Bayrou, ou plutôt François Biden, qui se rêve en homme du consensus après le temps des fractures. Alors face à ces ambitions qui se multiplient, le président brandit régulièrement les armes qui lui restent, c'est-à-dire l'arme du référendum, l'arme du remaniement, l'arme de la dissolution. Mais à dire vrai, les prétendants à sa succession ne semblent pas très intimidés par ces menaces. Alors si vous ajoutez à cela une situation internationale inquiétante, une situation économique préoccupante, une situation sociale abrasive, on mesure la très grande fragilité politique du président. C'est pour ça que même si l'obstacle du budget est franchi, et je pense qu'il sera franchi, ça ne dissipera pas cette impression bizarre, celle d'un pouvoir affaibli qui gère les affaires courantes.
Alors cette règle constitutionnelle qui interdit au président de se représenter plus d'une fois, est-ce que c'est la cause de ce climat, Vincent?
C'est un fait que le capital politique d'un président repose sur sa possible réélection, et encore plus quand il n'a pas de majorité absolue. J'imagine que vous avez lu, Dimitri, l'excellent roman de Michel Houellebecq, Anéantir, paru l'an dernier. Dans ce roman, on se retrouve en 2027. Le ministre de l'économie, inspiré par Bruno Le Maire, est pressenti par Macron comme candidat pour un unique mandat. Macron, dans le livre, a en effet l'idée de se représenter en 2032. Alors une fois encore, Houellebecq a montré sa prescience puisque cette possibilité d'une candidature d'Emmanuel Macron en 2032 fait son chemin dans les esprits à l'Élysée. Et là, ce n'est plus du tout du roman. Un article du Figaro d'Arthur Berda et François-Xavier Bourmeau le racontait il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, impossible de vous dire si ce scénario l'emportera, mais qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une obsession chez le président de la République, continuer à apparaître comme l'homme de l'avenir pour qu'on ne le regarde pas trop vite comme celui du passé.
Merci beaucoup Vincent Trémollet-Villers du Figaro à la une de votre journal. Un budget sous tension pour Emmanuel Macron. La preuve, Bruno Le Maire fait l'impasse cette année sur les assemblées annuelles du FMI. Que pourtant il ne rate absolument jamais. Je signale aussi dans votre journal ce matin la tribune de Sonia Mabrouk,
magnifique
notre
tribune
sur la leçon de liberté que nous donnent les Iraniennes. Sonia qui d'ailleurs va recevoir Jean-Louis Bourlange dans quelques minutes à 8h13 juste après le journal, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et député MoDem. Merci Vincent, 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Nous sommes le lundi 10 octobre, c'est Saint Daniel et ses compagnons que nous fêtons aujourd'hui. Saint Daniel, martyr en 1227, il tentait d'évangéliser les Sarrasins à Ceuta, au large du Maroc. Ils furent pour cela condamnés à mort. Dans un instant, le journal de Fanny Marceau et la météo. Lundi 10 octobre, il est pile 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, le spectre de la panne sèche continue de planer sur la France. Une station service sur trois affiche porte close en moyenne dans le pays suite à la grève dans les raffineries. Ce week-end, on a vu des gestes réciproques de bonne volonté de la direction de Total Énergie et de la CGT. Le point dans un instant avec Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Dans les stations service pendant ce temps, les automobilistes, eux, ne décolèrent pas. Nous irons à Saint-Dié-des-Vosges dans un instant rejoindre la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman. Les Vosges, où la préfecture interdit le remplissage des jerrycans. Dans ce journal également, un début du bras de fer sur le budget à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'exclut pas un passage en force, autrement dit le recours au 49-3. Et puis, trois fortes détonations entendues ce matin à Kiev alors que Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de terrorisme et à quelques heures du Conseil de sécurité du Kremlin. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée, les députés MoDem, Jean-Louis Bourlange, les pénuries de carburant, le budget, la réforme des retraites et puis Édouard Philippe et François Bayrou pour qui c'est déjà 2027, tout un programme ce matin, à tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a tous l'œil rivé sur la jauge du carburant ce matin. Certains d'entre nous ont même déjà déposé les clés de la voiture faute d'essence. Près de 15 jours après le début de la grève des raffineurs, un tiers des stations-service est à sec. Dans les Hauts-de-France, ça va jusqu'à 60%. Toutes les régions de France sont concernées. Bonjour Tatiana Geiselman.
Bonjour à tous.
Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, vous êtes dans une station-service de Saint-Dié-des-Vosges et vous avez croisé ce matin des automobilistes qui profitent des dernières pompes pleines.
Oui, et ici depuis ce matin, c'est un balai incessant de voitures. Il y en a à peu près une toutes les deux minutes qui arrive. Ce sont surtout des camionnettes professionnelles comme celle de Patrice qui est chauffeur-livreur et qui roule en moyenne 300 km par jour.
J'ai fait ce matin 7 stations essence et voilà, donc là, 7e station, ça pique. Moi j'en mets déjà plus sur mon véhicule perso, en fait on n'est pas sorti ce week-end parce que justement plus de gasoil aussi chez nous, donc voilà.
Le diesel, c'est effectivement ce qui manque le plus ici. En fait je suis dans la seule station où il en reste, dans les 20 km à la ronde. Les pompes ont été réapprovisionnées samedi et on attend un nouveau camion citerne ce matin, notamment pour remplir le sans-plomb 98 qui est à sec. Mais la situation s'apaise par rapport à la semaine dernière, selon Sylvain, qui est chauffeur poids lourd.
La semaine dernière, sur Saint-Dié, c'était fou. Le Leclerc, ici, à Gip, ça bouchonnait. Hein. Il y a pas mal de... Je pense que les gens, ils sont un peu aussi dans la folie, la pénurie, enfin, ils se précipitent, voilà, je pense.
Et effectivement, ce week-end, le préfet des Vosges a dû interdire le remplissage des jerrycans. C'est affiché sur toutes les stations, même si on a pu voir, encore hier, des automobilistes en train de remplir des bidons.
Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Les Vosges, remplissage interdit des jerrycans, on l'a dit. Dans les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et l'Eure-et-Loire, c'est pareil. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Journaliste au service économie d'Europe 1. Bon, les autorités contraintes de gérer finalement la distribution de carburant, les automobilistes qui perdent patience, tout un pays au bord de la pénurie à cause de deux mouvements sociaux. L'un chez Esso ExxonMobil qui prévoit de réunir ses quatre organisations syndicales aujourd'hui. L'autre chez Total Energy qui a tendu la main à la CGT CGT en proposant d'avancer les NAO, les négociations annuelles obligatoires au mois d'octobre. Que répond le syndicat ce matin ?
Alors, réponse aujourd'hui, après avoir consulté les grévistes, la CGT a proposé ce week-end d'abandonner plusieurs revendications pour se concentrer uniquement sur les salaires. Et si la direction est prête à négocier dès maintenant, ce sera une fois les blocages levés sur des bases qui correspondent globalement aux demandes du syndicat. 10% d'augmentation en prenant en compte l'inflation et les très bons résultats du groupe en 2022. Mais ce qui pourrait coincer, c'est la date de prise en compte de la mesure, 2023 pour la direction, avec un effet rétroactif pour toute l'année 2022 pour les syndicats. Et puis même si tout se passe bien, il faudra remettre en route les raffineries à Dunkerque où seule l'expédition est bloquée, cela pourrait aller vite. En revanche, sur le site normand de Total Energy, complètement à l'arrêt, il faudra une semaine avant un retour à la normale.
Alors Aurélien, la revendication centrale des grévistes, c'est l'augmentation des salaires. On se pose la question ce matin, sont-ils si mal payés les salariés des raffineries ?
Eh bien Dimitri, selon les données communiquées, opportunément, on peut le dire ce week-end, par la direction de l'entreprise, un opérateur de raffinerie touche en moyenne 4300 euros bruts par mois, sans compter l'intéressement et la participation. C'était 9000 euros en moyenne, là aussi, cette année. Il s'agit d'ouvriers, d'agents de maîtrise, environ 3000 personnes en France chez Total Energy, où la grille salariale est plus élevée que chez les concurrents, puisque dans les raffineries, le salaire débute à 1700 euros net par mois pour aller jusqu'à 3500 en fin de carrière.
Merci Aurélien Fleureau. Conséquence de ces pénuries de carburant, les Cars Bleus, réseau de transport scolaire en Essonne et Seine-et-Marne, annoncent que la majeure partie de ces trajets ne sera pas assurée aujourd'hui.
Voilà, ces pénuries, les conséquences aussi économiques, parce qu'il y a un vrai dilemme. Hein. Céder à la CGT, c'est peut-être enclencher une spirale inflationniste. On aura l'occasion d'en reparler dans le Club de la Presse Europe 1 à 8h40. 8h05 pour l'heure. La Macronie sur le pont avec la bataille du projet de loi de finances qui s'ouvre cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Elle semble perdue d'avance. Toutes les oppositions ont déjà prévu de voter contre. Le gouvernement envisage donc sérieusement d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans passer par le vote. Reste à savoir s'il laissera d'abord l'hémicycle débattre, passer en revue les 3339 amendements déposés et modifier le texte. Baptiste Morin, vous avez d'ailleurs épluché la première version de ce projet de loi pour Europe 1. Que doit-on en retenir ?
Il faut d'abord retenir la croissance estimée. 1% en 2023, c'est là-dessus que repose le budget. Le chiffre est contesté par plusieurs instituts, dont l'OCDE qui tape plutôt sur une croissance de 0,6%. Mais le gouvernement se veut confiant. La mesure phare de ce projet de loi de finances, c'est le bouclier tarifaire. 45 milliards d'euros pour contenir à 15% la hausse du prix du gaz et de l'électricité et protéger le pouvoir d'achat des Français. Ce projet de loi de finances 2023 prévoit aussi la création de 10 764 postes de fonctionnaires, très exactement. La plus grande partie pour le ministère de l'Intérieur, mais la justice et les armées vont aussi en profiter. Et puis il y a un volet important pour l'emploi et les entreprises. 5 milliards d'euros pour l'apprentissage, 84 millions d'euros pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, et puis la suppression d'une première moitié de la CVAE, un impôt de production, 4 milliards d'euros de fiscalité en moins pour les entreprises.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, notez que l'Assemblée nationale a 40 jours maximum pour la première lecture de ce texte.
En Ukraine maintenant, trois fortes détonations ont été entendues à Kiev, la capitale, ce matin.
C'était il y a moins d'une heure. La BBC, comme vous l'entendez, était en direct. Panache de fumée noire dans plusieurs endroits de la ville. Balais d'ambulances dépêchés sur les lieux des explosions. 10 minutes plus tôt, les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti. On ne les avait pas entendues dans la capitale ukrainienne depuis que le front de la guerre s'était déplacé vers le Donbass. C'était le 26 juin dernier.
Voilà, des explosions qui interviennent alors que Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de terrorisme.
Oui, pour le président russe, ce sont les services secrets ukrainiens qui sont responsables de l'explosion du pont de Crimée. Vladimir Poutine qui convoque aujourd'hui son conseil de sécurité. Ça promet d'être tendu, Nicolas Tonev.
Et toutes les idées sont sur la table ce matin au Kremlin, dont peut-être des ripostes à nouveau sur Kiev, si cela était le cas ce matin. Il faut imaginer le programme devant Vladimir Poutine, ses principaux ministres, les représentants des armées, des services secrets, devant eux l'explosion du pont de Crimée, les reculs militaires en Ukraine, une mobilisation qui tourne au fiasco, un huitième changement de général sur le terrain de la guerre. Ils doivent trouver des solutions. Alors pour l'aspect militaire, reprendre le dessus rapidement semble illusoire. Les milliers de vieux missiles ressortis pour les bombardements massifs ne suffisent pas. Il faut donc trouver des tactiques, des stratégies hors utilisation de l'arme nucléaire tant que celle-ci n'est pas prescrite par Moscou. En ce qui concerne le pont, le terme terroriste employé par le chef du Kremlin est très important car il sort l'attaque du cadre guerrier acceptable et quand il s'agit de terrorisme pour la Russie, le coupable désigné ici, hein, les services secrets ukrainiens, le coupable n'a littéralement plus de droit, il doit être détruit. Ça a été le cas pour les Tchétchènes avec de nombreuses exécutions extrajudiciaires y compris à l'étranger. Le terme terrorisme signifie donc la possibilité de riposte à venir, multiforme, prévisible et imprévisible, comme peut-être ce matin sur l'Ukraine.
Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.
Retour en France, un procès difficile s'ouvre aujourd'hui, celui du crash du vol Rio-Paris. C'était il y a 13 ans, le 1er juin 2009.
La compagnie Air France et le constructeur Airbus sont poursuivis pour homicide involontaire. 228 passagers, dont 73 Français, avaient péri dans ce crash. Le procès en correctionnel doit durer jusqu'au 8 décembre prochain. Une question, Dimitri, avez-vous un petit secret de cuisine pour donner du goût à vos recettes ?
Le sel, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est basique surtout. Hein. Bon, chacun son astuce, pourvu que ça fasse danser les papilles. On repassera pour danser les papilles. Mais en tout cas, surtout que ce soit sain, c'est tout le défi des restaurateurs, des restaurants collectifs depuis 2019. Ils essaient d'avoir le meilleur Nutri-Score possible et pour ça, les chefs des cantines n'hésitent pas à revoir leurs recettes. À l'occasion de la semaine du goût qui s'ouvre aujourd'hui, Céline Géraud s'est rendue dans les cuisines d'Elior, le leader mondial de la restauration collective. Reportage.
Bien calé au milieu des fourneaux, entre la sauce tomate et les filets de bar qui mijotent, le geste est sûr et le timing serré. Pascal Kieruel est chef cuisinier sur le site d'Elior à La Défense. Chaque jour, il compose minutieusement les menus pour ce restaurant d'entreprise. Et depuis la mise en place du Nutri-Score, il ne cesse de modifier ses recettes.
Ça a été un problème où il a fallu qu'on fasse des tests pour arriver à point avec une recette au top, avec le goût attendu. Et là, on passe d'un Nutri-Score C ou D à A.
Remplacer l'huile par du fromage blanc dans la vinaigrette. Préférer la fleur de coco au sucre dans les desserts. Pour tenir la promesse d'une cuisine plus saine et plus vertueuse, le chef a aussi dû faire preuve d'imagination.
Certains desserts, notamment un gâteau au chocolat, on remplace le beurre par de la courgette. Ça fait le même effet, ça amène justement un petit plus au niveau du goût et ça remonte le Nutri-Score. Donc là, on a une bonne note.
Ce gâteau au chocolat courgette et d'autres produits allégés en sucre et en matière grasse figurent au menu de 500 cantines scolaires en France. L'objectif ? Modifier les habitudes alimentaires de ces jeunes consommateurs.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau pour votre journal. Dans un instant, Jean-Louis Bourlanger, l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée MoDem et présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Nombre de stations-service sont fermées, les files d'attente s'allongent et la France puise dans ses réserves stratégiques. Malgré tout, le gouvernement se veut rassurant. Est-ce qu'on doit l'être ce matin, rassuré ?
Écoutez, je ne suis vraiment pas un spécialiste du marché intérieur de l'énergie, ni d'ailleurs du marché international de l'énergie, mais je considère qu'on est quand même en face d'un drame français absolument classique, avec une entreprise qui a des ressources financières qui se sont considérablement accrues, et des salariés qui prennent les méthodes traditionnelles en France, qui sont d'embêter tout le monde, pour parvenir à leur fin et avoir une augmentation qu'ils considèrent comme légitime. J'ose espérer que ça va se calmer assez vite. Je pense que le gouvernement a raison de recourir à l'ouverture des stocks stratégiques pour donner au grain le temps d'être moulu, si j'ose dire, et pour permettre au dialogue social de s'établir.
Dialogue social qui doit être mené avec la CGT, qui doit elle-même trancher aujourd'hui sur la suite de la grève. Ils ont donc les clés du conflit entre leurs mains, comme souvent.
Oui, ils ont. Alors évidemment, quand on fait appel à toutes ces consultations, on peut avoir toujours une espèce de volonté de radicalité, de surenchère. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais tout jeune, en mai 68, M. Segui avait négocié les formidables, pour la classe ouvrière, les formidables accords de Grenelle. Quand il est arrivé à l'usine Renault, il s'est fait huer. Et il a fallu que le Parti communiste et la CGT rament durement pendant 3 jours pour ramener tout le monde à la raison.
Vous parlez de mai 68, évidemment, comparaison n'est pas raison avec aujourd'hui, mais tout cela arrive malgré tout, Jean-Louis Bourlange, au moment où la crise énergétique menace l'Europe, au moment où beaucoup d'efforts sont demandés, notamment aux Français. Est-ce que vous craignez un risque d'étincelle sociale ?
Oui, je pense qu'il y a un décalage très profond entre ce que l'agenda réformateur, l'agenda de l'intérêt général demande et les attentes du peuple français qui sont sur une autre logique. Et je pense que c'est très très difficile à gérer. On le voit dans le budget où en réalité on a besoin d'une certaine rigueur et la pression à tous les niveaux, à droite, à gauche, se fait en faveur de la dépense. Monsieur Cazeneuve, le rapporteur général du budget, rappelait que on a voté en commission des finances 7 milliards de plus d'amendements dont on ne sait pas comment les financer. Mais il faut reconnaître, et l'opposition peut le dire, que ça s'ajoute aux largesses du gouvernement, que le gouvernement s'estime obligé de faire, parce que la situation est terriblement tendue.
Obligé de le faire, dit-on, Jean-Louis Bourlange, c'est quand même un test pour l'exécutif, ce budget. Ça risque d'être tendu à partir d'aujourd'hui. La question n'est pas tant de savoir d'ailleurs si le gouvernement va recourir au 49-3. C'est quand
Écoutez,
va-t-il le faire?
Le gouvernement, il est évident que le budget doit exister. La Constitution établie par le général de Gaulle et rédigée par Michel Debré est extrêmement claire à ce sujet. Elle est faite pour permettre au pays d'avoir toujours un budget.
Mais tout est question de symbole, de politique, vous le savez mieux que moi.
Oui, mais vous savez, moi, je réponds d'abord à votre question. Je crois que le 49-3, l'opposition se permet d'avoir une attitude apparemment irresponsable parce qu'elle sait qu'il y a le filet de sécurité pour le gouvernement.
Qui vous visez en particulier? Vous me dites l'opposition, qui en particulier?
Le problème c'est LR. LR, moi je vois mes collègues LR, ils sont vraiment, ils ne sont pas très éloignés des gens de la majorité, vraiment pas très éloignés. Ils ne sont pas d'accord sur Emmanuel Macron, mais le problème n'est pas Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron ne se représentera pas le moment venu, il y aura des candidats sortis de la majorité, sortis de l'opposition, et le peuple français fera son choix. Mais sur le fond, ils sont dans une attitude assez proche, et en même temps, nous avons deux candidats à la présidence du parti, qui sont M. Ciotti et M. Retailleau, qui mangent du Macron tous les jours, à tous les repas. Et là, il y a une espèce, je ne qualifierais pas schizophrénie, ce serait un peu excessif, mais il y a une contradiction très profonde que les députés ont peur d'arbitrer.
Mais attendez, si je vous comprends bien, Jean-Louis Bourlange, vous appelez ce matin, et en particulier les LR, la droite a une forme de cohérence, mais ils vous répondent, ces mêmes LR, Jean-Louis Bourlange, ils lui disent, d'accord, mais les budgets sont en train de filer, ils sont en train de pointer aussi un manque de rigueur budgétaire.
Moi, je suis sensible à cet argument.
Je le sais bien.
Je suis sensible à cet argument, mais je pense que la meilleure manière d'y répondre, ce n'est pas de voter des augmentations supplémentaires de dépenses. C'est ça le problème, c'est que tout le monde reproche aux autres la prodigalité et chacun est plus prodigue que chacun. On est vraiment... Parce que les besoins sont énormes. J'avais listé les besoins de dépenses supplémentaires, les besoins légitimes, que ce soit le coût de la dette, l'éducation nationale...
La
défense, le coût, la transition énergétique, la protection du pouvoir d'achat face à la transition énergétique. Enfin, vous n'avez que l'hôpital, l'école, vous n'avez que des raisons d'augmenter le budget. Et en face de ça, les moyens pour faire face ne sont pas vraiment acceptés, parce que les moyens, ils ne sont pas très compliqués. Il faut augmenter les impôts, personne n'en veut. Il faut augmenter la masse de travail fournie, notamment par l'allongement de la durée du travail, donc l'allongement de l'âge, le retard du passage à la retraite. Là aussi, personne n'en veut. Et donc, on est en face d'une situation.
Vous me parlez d'une
situation contradictoire.
Alors, jusqu'où faut-il aller pour, changer cette situation, Édouard Philippe?
Je crois que le gouvernement et le président de la République essaie peu à peu de sortir de cette espèce de semi-euphorie, semi-doute, qui a accompagné les élections présidentielles et législatives pour amener le pays à prendre conscience de l'ensemble des enjeux. Si ça ne marche pas, il y aura un clash. Ce clash, ça veut dire que le gouvernement ne pourrait pas, qu'il y aura une motion de censure. Cette motion de censure, pour qu'elle ait lieu, il faudrait que LR la vote, et je pense qu'ils y regarderont à deux fois, d'autant que vous avez vu, c'est un indice comme un autre, que mon camarade Jean-Noël Barrault, que je félicite, je me réjouis beaucoup, a été réélu avec 7 points de plus
qu'au printemps. C'est une législative partielle. Je vais en parler, Jean-Louis Borlange, mais prenons les choses dans l'ordre. Vous dites, attention, il faut bouger sur certaines choses après la semi-euphorie de la présidentielle. Et pourquoi, je veux dire, vos alliés, vos partenaires n'y croient pas? Après François Bayrou qui reproche à Emmanuel Macron de vouloir aller trop vite sur les retraites, voici Édouard Philippe qui s'inquiète d'un président, on ne va pas lire entre les lignes, qui n'aurait pas le courage d'aller assez loin. Comment vous expliquez ces positions aujourd'hui?
D'abord, il faut se méfier parce que François Bayrou, je comprends très bien ce qu'il a dit, je suis très proche de lui, mais je voudrais quand même qu'il soit un peu plus sensible à l'exigence réformatrice. Je n'ai pas beaucoup vu de réformes qui ont été ardemment soutenues par François Bayrou et je crois qu'il faut être réformateur. Philippe, je ferai exactement le reproche inverse. Être brutal, on a quand même vu ce que ça donnait sur, par exemple, les 80 à l'heure. Donc il faut... On a une société française extrêmement fragile et ça, je crois que le président de la République le comprend très bien et même s'il n'a pas beaucoup de moyens de traiter cette affaire, extrêmement fragile, extrêmement volatile et qui peut à tout moment partir en vrille. Et une crise grave, on a une crise intérieure, une crise sociale grave, franchement, il faut absolument l'éviter dans ce pays. Donc, alors, en revanche, ce qui est tout à fait exact, ce matin d'ailleurs, Vincent Trémollet de Villers en a parlé en termes très
avec
son talent habituel, c'est le fait, et moi je l'avais dit, le vrai problème de la majorité, ce n'est pas que la majorité soit courte. Bien sûr, ça serait mieux d'avoir une majorité absolue,
quel
notamment pour
quel
les parlementaires qui seraient moins requis de rester jusqu'à minuit, etc. Mais ça n'est pas important. Mais le vrai problème, c'est la non-rééligibilité du président.
Alors justement, à quelle situation cela aboutit? Est-ce que ce que certains disent, c'est que c'est un président qui ne pourrait plus que gérer les affaires courantes. Et c'est pour cela qu'Édouard Philippe et François Bayrou voient déjà 2027 alors qu'on est en octobre 2022.
Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il peut faire autre chose que gérer les affaires courantes. D'abord, je vous dis un petit point d'histoire. J'étais membre de la commission Balladur qui a eu à traiter de cette question pour préparer la révision de 2000. La commission Balladur, quasi unanimement, s'était opposée. C'est Sarkozy qui l'a imposé. Je me rappelle, Carcassonne nous avait dit, le feu Carcassonne qui était un formidable esprit, qui nous avait dit « Au nom de quoi voulez-vous empêcher les électeurs de voter pour le candidat de leur choix ?» Et il avait tout à fait raison. Et là, ça entraîne deux choses. Ça entraîne d'une part l'idée que la course est ouverte, donc tout le monde sort et de façon extrêmement prématurée. Moi, j'ai plutôt le sentiment, envie de dire aux candidats très légitimes d'ici et là, que
patience,
moderato
patience.
Cantabile, comme dirait l'autre. Et deuxièmement, et pour le président, c'est un problème intéressant, parce que en France, à tort ou à raison, la vie politique, c'est un sacerdoce. Un sacerdoce de puissance, pas un sacerdoce de désintéressement, il ne faut pas confondre. Mais un sacerdoce, c'est-à-dire une vie. Tous les grands hommes politiques que nous avons eus depuis toujours ont des gens qui ont consacré leur vie. Vous dites, alors ça touche directement Emmanuel Macron, vous dites dans 4 ans, il faut faire autre chose. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il
Jean-Louis
fasse
Bourlange, avant 4 ans, si vous deviez me citer là, aujourd'hui, une grande action, une grande réforme d'Emmanuel Macron qui aura marqué son quinquennat, c'est quinquennat et l'histoire, que me diriez-vous?
Moi, je crois qu'il a fait des réformes. Dans le premier quinquennat, il a fait des réformes importantes.
Donc, un exemple qui marque l'histoire.
Marque l'histoire.
L'histoire contemporaine de l'histoire de son quinquennat.
Je crois
de
qu'il a fait, il a fait deux choses. Il a fait un choix extrêmement clair en matière européenne.
Alors, ça, on va en parler.
C'est quelque
quel
chose. C'est quelque chose. Oh, bah, quand même, le plan de 200 milliards le passage à une Europe géopolitique, c'est pas fait. Mais c'est nous qui sommes porteurs de cette idée depuis de longues années et les Allemands sont en train, bon gré mal gré, de s'y rallier. C'est quand même une grande idée
française, je voudrais vous faire réagir. Il y a quelques semaines, quelques jours, à ce même micro, Hubert Védrine affirme qu'il y a une forme d'Europe qui s'américanise. Il n'y a pas du tout d'anti-américanisme en tout cela, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Védrine, il y a un peu d'anti-américanisme.
En tout cas, pas dans ma question. Est-ce qu'à l'aune de cette guerre, il y a une Europe qui s'américanise et... qui s'éloigne finalement d'une Europe
géopolitique? Je ne sais pas si l'Europe s'américanise, mais ce que Védrine n'a jamais admis, et c'est pourtant quelque chose, c'est que les progrès de l'Europe ont toujours été, contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, liés au développement de l'Europe occidentale. Et d'ailleurs, quand Mitterrand fait son grand discours à Bonn, sur les pacifistes sont à l'ouest et les fusées sont à l'est, eh bien, il il dynamise totalement l'Union européenne, ça débouchera sur le marché intérieur, le marché unique, et en même temps, il installe, il légitime l'installation des Pershing américains en Europe de l'Ouest. Et là, c'est la même chose. On a un double mouvement de réinstallation des Américains sur l'enjeu européen et en même temps de découverte géopolitique du projet européen.
La question, c'est qu'est-ce qui va prendre le dessus entre les deux ?
Alors là, je suis tout à fait d'accord avec votre scepticisme implicite.
C'est une question.
C'est implicite. Je crois que ça n'est pas gagné et qu'il ne faudrait pas qu'après que l'OTAN ait été sinon en mort cérébrale, du moins en coma profond, ce soit la défense européenne qui soit mise en coma profond par la défense atlantique. Donc là, on a un vrai combat et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'est pas du tout gagné. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la défense européenne a fait des progrès considérables. Ce qui a progressé, c'est la conscience, notamment chez les Allemands, de l'enjeu géopolitique du combat européen.
Géopolitique et militaire, hein, compte tenu de ce qu'ils sont en train de faire, mais cela va ensemble.
Géopolitique, c'est un mot savant.
Jean-Louis Bourlange, ce matin,
prétentieux pour dire militaire.
Effectivement, il y a des très fortes détonations qui ont été entendues dans le centre de Kiev. Nous vivons un moment, j'allais dire, encore plus paroxystique et inquiétant depuis l'explosion du pont de Crimée. Poutine dénonce les services ukrainiens. Vous étiez jeudi dernier en Ukraine. Vous avez rencontré le président Zelensky lors d'un voyage avec une délégation parlementaire menée, je le précise, par la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Est-ce que la paix en Ukraine passe inévitablement par la chute de Poutine ?
Écoutez, c'est ce que le président Zelensky nous a fait un accueil excellent. Les relations apparemment sont très bonnes avec le président, mon ami Emmanuel Parsi, etc. Ça se passait très bien, mais le message fondamental était un message de très grande fermeté. Il nous a dit, nous ne négocions pas sur la centrale tant qu'il y a 400, Russes à l'intérieur de cette centrale. Nous ne négocions pas avec Poutine, avec la Russie tant que Poutine est à sa tête et nous voulons une entrée accélérée dans le temps.
Il faut le suivre sur Poutine ?
Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut comprendre il faut comprendre l'ampleur des sacrifices consentis par les Ukrainiens. Vous savez ce qui s'est passé au cours du mois de septembre, c'est assez brillant succès militaire, ça coûtait cher. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Zelensky ne peut pas se permettre d'avoir une attitude à ce stade de négociation. D'autant que la négociation telle que la veut Poutine, ce serait vous lâcher le quart de votre pays.
Chacun est dans son rôle. Mais avec quelle conviction êtes-vous revenu de ce voyage ? Est-ce que les Européens doivent suivre Zelensky et, je veux dire, miser sur un renversement de Poutine ? Ou est-ce que vous entendez ceux qui disent « Attention, il pourrait y avoir un leader encore plus radical parce que dans son entourage, il y a des ultra nationaliste prêt à tout. »
Oui, mais ça, l'histoire du leader radical, ça me fait un peu rigoler, c'est sans doute vrai, mais dans les années 20, M. Ramsay MacDonald, qui était un Premier ministre qui n'a pas laissé un grand souvenir en Grande-Bretagne, disait « Il faut aider Staline à se protéger de ses durs. » Alors, il y a toujours, tout leader soviétique a des durs, ou russe, a des durs à côté de lui dont il faut le prémunir. Non, je ne sais pas comment ça va se passer. Il est évident que M. Poutine s'est mis dans une situation d'impasse dont je pense la plupart des responsables politiques, économiques, sociaux de Russie sont conscients. Alors comment vont-ils faire ? Les secrets de l'alternance appartiennent à la Russie et au Kremlin et nous n'en sommes pas dépositaires.
Merci Jean-Louis Bourlange d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Jean-Louis Bourlange. Merci Sonia Mabrouk. Tiens, je vais rebondir sur votre conversation européenne. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron jeudi à ses partenaires européens. On va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains et norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher longtemps, c'est que vous nous le vendiez 4 fois plus cher que vous ne vendez à vos industriels. Parce que derrière la grève, derrière les pénuries dans les stations de carburant, la vraie crise énergétique, c'est celle-là, celle dont est parlé Emmanuel Macron. On en parle dans 10 minutes dans le club de la presse Europe 1. 8h29, dans un instant, Philippe Val va nous parler, lui, du Nobel de littérature attribué à Annie Arnaud.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32 sur Europe 1, le journal permanent, Christophe Lamar.
Le gouvernement puise dans ses réserves stratégiques pour éviter aux automobilistes d'être paralysés. La situation va s'améliorer tout au long de la semaine, assure la Première ministre. Une station sur 3 est en manque de carburant en France. La situation est très variable d'une région à l'autre. C'est en Île-de-France et dans les Hauts-de-France que l'on compte le plus de stations fermées. Au moins 1 sur 2. Parfois, c'est un type de carburant, essence ou diesel, qui fait défaut. Dans d'autres cas, les cuves sont tout à sec. Total Energy tend la main aux grévistes et se dit prêt à négocier dès aujourd'hui une condition préalable, la fin de la grève et le déblocage des raffineries. Du côté des organisations syndicales, la principale revendication porte désormais sur une hausse des salaires, plus 10%. Le centre de Kiev, secoué par trois fortes explosions ce matin près de la cathédrale Sainte-Sophie, des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs gros panaches de fumée. Aucun bilan pour l'instant. Pas de preuves à ce stade, même si on ne peut s'empêcher d'y voir une représaille de Moscou après l'explosion du pont de Crimée ce week-end. Un acte terroriste qui porte la signature des services secrets ukrainiens pour Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin réunit aujourd'hui son conseil de sécurité. Enfin, Laurent Blanc revient sur un banc de Ligue 1 pour entraîner Lyon. L'ancien coach du PSG a signé pour 2 saisons plus 1 en option.
Merci Christophe. Le temps, Anissa Haddadi. Le ciel est nuageux en ce lundi.
Et oui, après le très très beau dimanche que nous avons eu sur les 3/4 de la France, c'est vrai que là, ça change bien avec des nuages sur presque toutes les régions. Attention ce matin aussi au brouillard, hein, des brouillards très épais et très nombreux dans le nord-est. Alors c'est à l'ouest. Le long de la façade atlantique, c'est là que le ciel est le plus menaçant avec une perturbation qui nous arrive de l'océan avec des petites averses ce matin. Dans l'après-midi, on a quelques coups de tonnerre qui sont possibles entre les Pyrénées et le Massif central, mais de manière générale, c'est vrai qu'il va falloir garder un parapluie près de vous. Il ne va pas forcément beaucoup vous servir, mais au cas où, les 2-3 gouttes prévues dans la journée, ça pourrait être important de ne pas partir sans. C'est à l'est que le soleil résiste et que la journée est la plus belle. Cet après-midi, température baisse avec 16 degrés à Dunkerque, 18 à Cherbourg et Amiens, 20 degrés à Châteauroux, 21 à Paris et La Rochelle, 22 à Montpellier et Belfort, 24 pour Ajaccio et jusqu'à 27 degrés à Cahors.
Merci beaucoup Anis, à 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Dans un instant, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour Philippe et bonjour à
bonjour.
Tous.
Bonjour. On va parler sans plomb 98 avec vous dans un instant. Mais d'abord, la grande littérature, mon cher Philippe, là ça va voler très haut. On va parler du Nobel attribué à Annie Arnaud.
Oui, oui, pour les passionnés de littérature, les jours qui précèdent l'attribution du prix Nobel de littérature ressemblent à un film d'Hitchcock. Les amoureux de Georges Luis Borges, dont j'étais, ont espéré en vain pendant des années voir couronner leur favori. À l'époque, une partie de la critique littéraire avait exprimé son mécontentement, à tel point que l'Académie Nobel avait cru bon de se justifier en prétendant qu'elle croyait que son œuvre était un canular monté par un collectif d'écrivains argentins et que l'écrivain Borges n'existait pas. Un journaliste demanda à Borges ce qu'il en pensait, et Borges, dont toute l'œuvre tourne autour des rapports ambigus qu'entretiennent la fiction et la réalité, avait répondu avec humour que « je n'existe pas » est une hypothèse intéressante.
C'est dingue cette histoire. Alors cette année encore, le suspense était à son comble. Hein.
Oui, 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 mais un suspense un peu éventé, comme une coupe de champagne à 4h du matin quand les invités sont partis et qu'on se demande comment tout faire rentrer dans le lave-vaisselle. Les jurys Nobel sont des gâcheurs de scénarios. Si les temps passés ont connu des rebondissements réjouissants, avec Thomas Mann, William Faulkner, Albert Camus, Winston Churchill, depuis des années, la fin est bâclée. On attend Grouchy et ses Blücher. Romain Gary, Philippe Roth ou Colette, immense écrivaine française qui a eu le malheur de ne pas commencer comme agrégée de lettres mais comme danseuse de music-hall, n'ont pas eu les honneurs de l'Académie. Et que dire de Kundera, dont l'œuvre magistrale a secoué l'Europe et rayonné dans le monde entier.
Tellement vrai.
Sans doute ne cadre-t-il pas avec la ligne éditoriale de l'Académie, subtil mélange d'un prudent wokisme et du bon goût Télérama.
Alors ce qui explique, Philippe, qu'il est inutile que Houellebecq prépare sa valise pour aller recevoir le prix à Stockholm l'an prochain.
Eh oui, pas plus Houellebecq que Salman Rushdie. Peut-être pour la même raison que Borges d'ailleurs, les trois ayant formulé quelques critiques sur la religion musulmane par exemple. Sans vouloir être désagréable avec Annie Arnaud, dont j'ai le souvenir de pages très émouvantes et justes, notamment sur son père, je crains que son couronnement par les Nobel doive davantage à ses prises de position politiques qu'à l'originalité littéraire de son œuvre. Si désormais le moindre écart à droite, ou jugé de droite, d'un auteur génial le raye définitivement de la liste des lauréats potentiels, les gros dérapages à gauche, en revanche, n'entament rien les chances de ceux dont l'inventivité littéraire, de toute évidence, ne saurait rivaliser avec celle de Kundera ou de Salman Rushdie. Apparemment, l'humour de ces deux derniers, leur liberté, leur insolence, les rendent aussi incompatibles avec le prix Nobel qu'une prise USB avec une lampe à pétrole.
Bref, le suspense du Nobel avec le happy end d'Annie Arnault vous a déçu, Philippe?
Ben oui. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants et les vaches sont bien gardées. Chez Annie Arnault, l'indignation n'est pas moins professionnelle que la littérature. Hélas, l'une prospère toujours au détriment de l'autre. Nietzsche avait repéré que, je cite, « nul ne ment autant qu'une personne indignée ». Sitôt informée de son prix, Annie Arnault s'est empressée de préciser que si elle défendait les femmes iraniennes, évidemment, elle continuait à défendre le port du voile pour les filles et les femmes musulmanes en France. Ce paradoxe repose sur la thèse selon laquelle le voile n'aurait pas la même signification en Iran et en France. C'est évidemment un gros mensonge. Dans les deux cas, le voile est un signe politique qui exprime un système et une oppression patriarcale censée révulser tout esprit féministe. Sauf à confondre culture et propagande, il me semble que c'est précisément ce genre de mensonge dont la littérature doit prendre le risque de s'affranchir, quitte à déplaire au jury Nobel.
Alors Philippe Val qui dénonce le patriarcat, celle-là quand même, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Merci beaucoup Philippe Val. Bravo, c'était très bon édito. Demain, c'est Yann Moix qui sera à votre place. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors on replonge là dans les galères du quotidien, celles des automobilistes en l'occurrence. Dimanche, selon le gouvernement, on avait 30% des stations-service en difficulté pour fournir l'un ou l'autre, voire tous les carburants. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, c'est même plus de la moitié des stations. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il y a la raison très commentée ici même depuis ce matin, une grève dans les raffineries françaises chez Exxon et surtout chez Total Energy. Des revendications salariales dans un secteur quand même plutôt bien doté. La raffinerie de Normandie est à l'arrêt. Les autres raffineries selon Total fonctionnent, mais les sorties de carburant se font au compte-gouttes. Tout ça, ça perturbe le marché de l'essence. Ça devrait s'arranger dans les prochains jours, puisque Total a proposé d'ouvrir des négociations salariales sans beaucoup de mystère. Il a dit qu'il revaloriserait les salaires. Tout ça, si les raffineries sont débloquées.
Donc, effectivement, il y a la grève, mais ça n'explique pas toutes les files d'attente interminables, les bagarres à la pompe, les drames.
Et non, et c'est là que ça devient intéressant et irrationnel. Une bonne partie du manque de carburant n'est pas due au manque du carburant, mais à la peur de manquer de carburant. Alors le contexte de la grève là, qui nous occupe, c'est la décision de Total de rabaisser le prix au litre de 20 centimes le 1er septembre, qui s'est ajoutée aux 30 centimes de rabais du gouvernement. Tout ça, assez logiquement, ça a créé un appel d'air, des achats de précaution. Total a vendu 40% de carburant en plus au mois de septembre. Et toutes les stations-service de France ont vu les volumes flamber. Les automobilistes avaient peur que les mesures de protection contre la flambée s'arrêtent. Mécanique bien connue, hein, surachat, technique du jerrycan, on stocke à la maison. Et quand le marché a commencé à se resserrer avec la grève le 27 septembre, beaucoup de Français se sont à leur tour dit « vite, vite, allons-y ». Et ils se sont rués sur les stations-service et ça a créé des queues qui à leur tour ont fait peur à d'autres clients qui ont eu peur de manquer. Et la suite, vous la connaissez, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice.
Mais rien de neuf sous le soleil finalement, hein.
Non, sauf que dans cette situation, il suffit que le gouvernement dise qu'il n'y a pas de pénurie, ce qui est objectivement le cas, pour que les consommateurs, dans un effet de masse, entendent le mot « pénurie ». Et ce phénomène, on l'a tous vécu déjà une fois au moment du premier confinement. Pas sur l'essence, mais sur le papier toilette, les pâtes, la farine, les œufs. Par peur de manquer, on a vu des consommateurs vider les rayons, créer l'impression paniquante du manque et enclencher le cycle de surachat. Alors que les œufs, la farine, on en avait en abondance. La psychologie des foules a donc créé la panique. Alors ce ressort, on peut au choix y voir de l'égoïsme ou simplement un réflexe profondément humain de survie.
Alors ce mécanisme-là, bon, c'est vrai que ça crée une pénurie ponctuelle. Hein. Pénurie, c'est quand même objectivement ce que c'est, mais ça peut avoir des conséquences bien pires. Hein.
Et oui, parce que la prophétie autoréalisatrice du manque peut s'appliquer à l'argent. Quand tous les clients d'une banque se précipitent au guichet pour tout retirer, incitant les autres clients à faire la même chose, car personne ne veut évidemment être le dernier servi. Ça s'appelle un bank run, une panique bancaire en bon français, et ça provoque des faillites et de vrais effets dominos absolument terribles. On a vu ça pendant la Grande Dépression aux États-Unis, en 2015 en Grèce et en 2001 en Argentine.
Au Liban, là, récemment. Hein.
Voilà. Oui. L'Argentine, c'était il y a plus de 20 ans et le système bancaire argentin est toujours sinistré. La conclusion de tout ça, c'est que la peur est souvent plus dangereuse que la réalité.
réalité, mais que la peur rend aussi la réalité extrêmement dangereuse.
Oh là là, quelle philosophie magnifique. Mais vous avez tout à fait raison, Emmanuel Ducrot. Tiens, je vous propose de rester avec nous dans le club de la presse Europe 1, si vous le voulez bien, car précisément, nous allons continuer à parler de cette pénurie par surprise créée par la CGT, avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs. Philippe, à bientôt.
À tout.
8h42.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h45, le club de la presse Europe 1. Avant de se demander s'il y aura encore du gaz pour cuire la dinde à Noël pour cause de guerre en Ukraine, vérifiez que vous avez bien fait le plein de la voiture pour cette semaine. Une station sur trois à sec d'au moins un carburant, nous disait Emmanuel Ducrot il y a à l'instant. Une sur deux en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Voilà que la CGT invente la pénurie par surprise. Bon, par surprise, ça fait deux semaines, l'air de rien, qu'elle a commencé cette grève, mais médiatiquement, elle est née en toute fin de semaine. Oui, grève dans les raffineries du pays. Alors, c'est simple, des raffineries, vous en avez six, ça va relativement vite. Quatre Total, deux ExxonMobil. Grève pour les salaires qui provoquent des ruptures d'approvisionnement. Mais ils sont où les ministres pour débloquer les blocages? Voilà ce que se disent les gens, ce qu'on entendait ce week-end un petit peu dans les files d'attente. Or, le message gouvernemental, ben voilà, c'est de dire non, c'est pas une pénurie, c'est un conflit privé cette histoire, c'est interne à Total. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour Dimitri.
De l'Obs, bienvenue sur Europe 1. Charlotte Dornelas nous a rejoint aussi de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Emmanuel Ducrot est resté avec nous. C'est un peu la panique à tous les étages d'ailleurs sur la question énergétique, dans la rue, la station-service, mais aussi au Conseil européen. Je vous raconterai ce qui s'est dit à Prague jeudi dernier, de même à Washington aussi. Un gros coup de gueule de Joe Biden suite aux annonces de l'OPEP+, nous disant qu'ils allaient réduire leur production de 2 millions de barils par jour. Alors que nous dit cette grève et cette pénurie qui n'en est pas une, Carole Barjon, de notre situation énergétique actuellement là ?
D'abord que... On sait que l'essence est un sujet explosif, par définition, hein, au sens propre et au figuré. On se souvient que la crise des Gilets jaunes avait démarré par une taxe sur l'essence. C'est vrai qu'on peut trouver assez étonnant. Cette grève a démarré quand même fin septembre, et dans les raffineries. Et les effets ont commencé à se faire sentir en fait en début de semaine dernière.
Ouais, c'est ça, ouais.
Vous disiez que c'est apparu médiatiquement
jeudi
en fin
dernier,
de semaine,
ouais,
oui,
jeudi.
Enfin en milieu de semaine dernière.
Mercredi, jeudi, ouais.
Et moi je suis un peu, un peu étonné, le mot est faible, par l'absence d'anticipation du gouvernement. Quand on sait ce que ce genre de sujet de grève et de blocage de l'essence et de pénurie du coup pour les consommateurs, même si c'est une pénurie temporaire, mais quand on sait ce que ça peut provoquer.
Et puis quand on voit la qualité de la grève, je veux dire par là un taux de grévistes de jusqu'à 80% sur certains sites, c'est vous dire la détermination des grévistes depuis trois semaines pour obtenir 10%
de salaire.
D'augmentation
de salaire.
On est sur un mouvement dur.
Oui, on est sur un mouvement dur, alors pour tout un tas de raisons aussi. La question des salaires, on le sait, dans la campagne présidentielle, tout le monde convenait, hein, à droite ou à gauche d'ailleurs, qu'il y avait un problème de salaire en France et qu'il fallait les augmenter. Bon, donc la CGT joue évidemment là-dessus. Elle joue évidemment sur le fait que c'est Total dont elle estime qu'il doit payer une taxe sur les super-profits. Et d'ailleurs, dans leur revendication, qui est de 10% d'augmentation, il y a 7% pour l'inflation et 3% au titre des super-profits café Total. Bon, mais tout ça, le gouvernement le savait.
Oui.
Bon, et on sait la panique que ça peut provoquer. Enfin, dès qu'on sait qu'il y a un problème de raffinerie bloquée, on sait parfaitement ce que ça provoque, on sait parfaitement que les consommateurs vont anticiper et que ça va augmenter probablement la pénurie. Donc, la réaction tardive m'étonne beaucoup.
Comment vous regardez ça, Charlotte Dornelas? Vous dites il y a une faute politique du gouvernement à ne pas avoir anticipé une situation, certes qui est un conflit privé, ou bien c'est la raideur de la direction de Total, finalement, qui génère ces pénuries à la pompe?
Et la raideur des grévistes aussi, peut-être. Non, mais c'est la raideur de tout le monde dans cette histoire. Et l'attentisme. En fait, le gouvernement, je ne vais pas leur reprocher
tout. Jean-Luc Bourlange disait, c'est un drame français typique, en fait.
Justement, à force d'être un drame français typique, on pourrait peut-être l'anticiper un peu mieux, parce que c'est surtout ça, en fait, la question. Parce que c'est vrai, on connaît l'histoire par cœur. Sauf qu'en l'occurrence, s'il n'y a pas de pénurie réelle. Il y a bien une pénurie individuelle, on va dire, de tous ces gens qui ont passé le week-end à faire la queue pendant des heures simplement pour aller travailler.
Il y a un sujet de pénurie de manière qui est installé dans le débat public. Les gens savent que
c'est surtout dans la communication du gouvernement, avant de se poser la question de l'anticipation de ce manque d'essence à la pompe réel, il y a quand même cette question de la communication. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prononcez vous-même le mot pénurie pour expliquer qu'il n'y en aura pas, c'est ce que disait Emmanuel à l'instant, mais c'est parfaitement vrai, vous créez l'idée que évidemment potentiellement il y en a une. Après vous avez Agnès Pannier-Runacher qui vient vous voir et qui, non contente de ne pas avoir parlé plus tôt, explique que en gros tout ça est un peu de la faute des gens qui se sont rués sur la pompe à essence. Alors excusez les gens, mais
quand le Covid, elle est confinée, hein,
ah oui, bah,
décharge,
la Covid, la
Pannier-Runacher.
Simplement peut-être aussi que les Français qui ont besoin de cette essence pour aller travailler sont un peu échaudés aussi des communications du gouvernement qui explique qu'il y aura pas de problème, il y a systématiquement un problème deux jours après. Donc à partir du moment vous prononcez le mot, vous créez la réalité et qui, de fait, maintenant existe.
Il y a peut-être plusieurs étages aussi dans ce sujet-là, parce que moi, je vois aussi un vrai dilemme de la part du gouvernement, et même pour le groupe Total et pour toutes les entreprises, c'est que pour régler la pénurie rapidement, c'est simple, céder à la CGT, augmenter les salaires. Oui, mais voilà, il y a ce risque que ça fasse jurisprudence d'une certaine manière, et qu'un petit peu partout, on le sait, il y a des grèves partout dans le pays pour les salaires. Eh bien, on arrive à cette fameuse boucle prix-salaire que le gouvernement pensait avoir contenue en aidant le pouvoir d'achat des Français.
Mais il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que ça se passe chez Total quand même. Total, qui est une des entreprises de France qui rémunère le mieux ses salariés, les salaires des raffineries sont vraiment de très très bons salaires. Le salaire minimal d'une raffinerie, il est 10% supérieur au SMIC. Pour l'emploi le moins qualifié, c'est un secteur où il y a beaucoup de primes. Donc c'est vraiment pas le prolétariat maltraité, le personnel des raffineries. Et puis il y a quand même vraiment pour moi une affaire de mauvaise foi dans cette affaire, parce que le PDG de Total depuis mai ne fait aucun mystère du fait que l'entreprise fait une excellente année, et il a dit aux salariés: on ne vous oubliera pas, on va partager les fruits de l'abondance avec vous. Il leur a dit. Donc je m'interroge sur le fait qu'on n'a même pas commencé les négociations qui ont déjà été annoncées, avancées, elles devaient avoir lieu en janvier, on les avait promis aux salariés en novembre, donc ils les veulent maintenant avec deux semaines d'avance. Elles n'ont pas commencé, tout le monde crie avant d'avoir mal, et je me demande quelle est la dose de bonne foi de la CGT entre on veut vraiment des meilleurs salaires et on veut bordéliser la société.
Mais il y a surtout aussi une marche organisée par la NUPES, je crois, ou France Insoumise, dimanche prochain, pour les salaires, pour l'augmentation générale des salaires. Donc là, la CGT, elle joue évidemment un jeu aussi très politique, et elle veut s'affirmer comme le meilleur défenseur des salariés face à la CFDT. La CFDT, d'ailleurs, qui a donné un très léger coup de pouce au gouvernement dans cette affaire, en faisant remarquer qu'on ne faisait pas de grève préventive avant que les négociations salariales aient commencé avec l'entreprise en question, enfin quelle que soit l'entreprise du reste. Mmh. Or là, c'est exactement ce que la CGT fait, c'est une grève préventive.
Oui. Il faut réquisitionner. Vous pensez que ça fait partie des options qui sont sur la table? Parce qu'on voit l'immense prudence du gouvernement dans tout un tas d'autres sujets. Tout à l'heure, Jean-Louis Bourlange toujours parlait d'une société française fragile, qu'il ne fallait pas brutaliser, etc. La réquisition, c'est quand même... c'est une mesure quand même un peu de grande fermeté, Charlotte Donnellas.
En fait, c'est surtout là, ce que vous disiez
sur
le...
Est-ce que les Français attendent? On le voit dans les sondages, ils disent plus d'autorité, les Français.
Non, mais bien sûr, parce qu'il faut... En fait, il faut répondre simplement. Quand on observe ce qui se passe depuis quelques jours, on a quand même du mal à comprendre la cohérence de tous les acteurs de la situation. C'est-à-dire que, oui, le patron de Total dit depuis des mois, ça va retomber sur les salariés, on va partager. D'un autre côté, il faut 20 jours de grève pour qu'ils finissent par dire « Ok, on va faire les négociations plus tôt. » Mais je ne sais pas. Il peut y avoir aussi une volonté d'avancer la négociation préventive. Et d'un autre côté, j'entends bien que répondre à cette pression des grévistes, c'est aussi créer une jurisprudence. Jurisprudence qui, existe déjà dans ce pays, puisqu'à chaque fois qu'on fait la grève, au bout de deux jours... à chaque fois qu'il y a une grève, au bout de deux jours, c'est la panique et on ne sait plus comment répondre à cette question de la grève. Donc, il y a un moment, il faudrait se tenir. Soit on revoit la question de la grève dans certains secteurs et en effet, la réquisition est prononcée. Mais dans ces cas-là, il faut changer d'état d'esprit. Parce que j'entends beaucoup de gens nous expliquer hier, attendez, c'est c'est le droit du travail, c'est comme ça. Et d'un autre côté, taper sur la pauvre personne qui va à la pompe et qui prend de l'essence, alors là, c'est open bar. Bon, c'est un peu pénible.
Honnêtement, la réquisition, ça apparaît comme tout à fait impossible en ce moment, dans la mesure, même si Olivier Véran a effleuré cette idée hier, tout en disant qu'il ne voudrait pas en arriver là. Mais c'est un... Enfin, comment dire ? D'abord, les conséquences seraient peut-être encore pires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et d'autre part, il faut un pouvoir fort pour faire ça. Or, le pouvoir actuellement est faible.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand le gouvernement réagit en disant « Mais en fait, c'est un conflit privé, cette histoire de grève chez Total », c'est exactement ce qu'ont dit les 27 au sommet de Prague, qui les réunissait en Conseil européen ce vendredi, à propos des prix délirants qu'on peut observer sur les marchés du gaz et du pétrole. Ben oui, mais non, le marché du gaz, du pétrole, c'est un marché privé. Et donc, il y a un jeu du marché. Est-ce que les États doivent bloquer les prix à un certain niveau au risque de provoquer des pénuries, parce qu'à ce moment-là, le vendeur risque d'aller vendre ailleurs, tout simplement. C'est assez frappant de voir ce parallélisme. Et j'ajouterais que la vraie crise énergétique, elle est plutôt sur les marchés du gaz et du pétrole que dans notre station-service ponctuellement, là, Emmanuel Ducrot.
Mais on est en train de vivre un moment incroyable où on se rend compte qu'il y a des besoins primaires de l'être humain, hein, ceux qui dépendent de l'énergie, ceux qui dépendent de la nourriture, et pour lesquels les mécanismes doivent être différents. Et c'est assez terrible de s'en rendre compte. Mais alors moi, je n'ai pas de solution. Je sais que cette histoire de bloquer les prix de l'énergie, elle est discutée. Vraiment, je n'arrive pas à me faire une...
L'acrimonie des Européens à l'égard des États-Unis et de la Norvège. Oui. Alors, juste pour donner, c'est dans les échos ce matin, la Norvège, elle a gagné 66 milliards d'euros avec son gaz l'an dernier. Elle va en gagner 192 cette année, fois 3. Mm-hmm. Pas mal, hein ?
Mais parce que c'est justement... C'est un marché mondial, l'énergie, et on se retrouve aussi prisonnier de notre propre logique, hein, parce que si nos prix de l'électricité montent, c'est aussi parce qu'on a un marché de l'énergie qui n'est pas corrélé à la réalité du coût de la production.
Oui. Tiens, une petite remarque aussi. Vous avez vu, l'OPEP a annoncé réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour au 1er novembre. Pas de bol, c'est pile le jour où la ristourne gouvernementale, elle passe de 30 à 10 centimes.
Quelle bonne idée.
On se prépare un mois de novembre, je vous dis, extrêmement sympa. Alors, peut-être pas au niveau de la disponibilité du carburant, mais en tout cas sur son prix. Hein. On est peut-être parti sur à nouveau du litre à plus de 2 euros.
Mais peut-être que justement, les consommateurs avaient raison d'aller faire des achats de précaution. Ça tombe mal au moment de la grève de Total, mais on peut les comprendre. Hein.
C'est vrai, vous avez raison. Bon, merci à toutes les trois carburants. Oh, je vous avais promis de parler de Bruno Latour, Carole Barjon. On s'en reparlera une autre fois.
Oui, qui est un philosophe un peu inclassable, touche à tout.
Il y avait des choses à dire sur celui qui nous parle du nouveau régime climatique.
Il y a de très bons papiers dans l'Obs sur lui cette semaine, qu'on republie à l'occasion de son décès.
Vous ne connaissez pas Bruno Latour, faites connaissance, c'est l'un des philosophes français les plus influents dans le monde aujourd'hui et l'un des plus lus. On en reparlera, promis, Carole. Merci, 8h57. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Allez, Culture Média sur Europe 1, dans un instant au programme.
RMC Découverte, c'est une chaîne documentaire qui a 10 ans d'existence et ils lancent leur première quotidienne aujourd'hui. Vous allez dire sur quoi ? Sur quoi ? Je sais pas moi, les planètes, la science, Bruno Latour, la philosophie, pas du tout. Un concours de garagistes. On sera avec Stéphane Salichou, c'est le patron de la chaîne, il nous dira pourquoi. Au sommaire également, Bérangère Krief, comédienne, et Claire Fiachi, qui n'était pas comédienne, qui est présidente de l'association Ensemble pour Elle. Elles sont dans un téléfilm diffusé ce soir sur M6, autour, si j'ose dire, de la lutte contre le cancer du sein. Et puis les comédiens et humoristes Noémie Delattre et Cyril Eldin pour une pièce de théâtre. Ça s'appelle Le Fantasme. Mais quel est ce fantasme ? Ils nous diront.
Culture Média sur Europe 1, ça démarre dans 5 minutes. Réponse à la devinette dans une petite heure. Merci Philippe Vandel, je vous souhaite une bonne émission. Quant à nous, on se retrouve demain matin dès 7h dans Europe Matin. Et c'est l'ami Romain Desarbres qui vous accompagne pour l'actu dans Europe Midi à partir de 12h. Bye bye.